Bonjour et bienvenue sur Gameblog pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction, toujours et éternellement enregistré sur, et bien désormais, la table rouge laquée la plus incroyable de l'humanité internetienne. Voilà, émission 142 aujourd'hui, avec une thématique pas piquée des vers, ou des hannetons, comme on dit, je ne sais pas, le Japon. Pète les plombs, littéralement. Vous allez voir un florilège intersidéral de jeux, pour la plupart absolument, qui n'ont jamais quitté l'archipel nippon, et pour cause, hein, ils sont complètement barrés, des véritables petites pépites qu'on allait vous rechercher, et pour ça, bien évidemment, on ne pouvait pas faire appel à Florent Gorge, le responsable de Pixel Love. Ça va, Florent ?
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde, ça va très bien, merci.
La mémoire vivante du jeu vidéo, les anecdotes du jeu vidéo, à chaque fois, tu nous scotches. Et aujourd'hui, au vu des titres qu'on va que je vais tenter de prononcer, hein,
je t'aiderai.
Voilà, je m'excuse d'avance. Hein, on va totalement halluciner. On parle de Pixel Love justement. Il y a le 12e Pixel Love, hein, qui est dédié à Adventure Island, qui vient de sortir.
Ouais, exactement. Adventure Island, qui est un jeu qui a bien marqué l'époque 8-16 bits. Mm-hmm. Et on y explique notamment qui est le petit personnage qui se cache derrière Adventure Island. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Takarashi Meijin. Mm-hmm. Et donc on l'a rencontré, il nous a expliqué plein de choses sur sa carrière et c'est totalement passionnant. Mais sinon, on a d'autres articles très sympas.
Ouais, je voyais.
Notamment un sur la Russie du jeu vidéo. Alors là, je vous le conseille. Ouais. Où on revient en détail à un spécialiste qui a vécu longtemps en Russie, qui nous parle des clones et du business du jeu vidéo dans ces années 80-90. Et c'était mm-hmm. vraiment très sympa, quoi.
Mm-hmm. Et il y a plein de choses. Hein, on en entend parler aussi un petit peu de Tommy Tallarico, hein, oui. Que certains connaissent désormais grâce aux Video Games Live. Mais bien
exactement.
Évidemment, il a fait énormément de musique de jeux vidéo. Je crois que c'est plus d'une centaine. Hein.
Il en a fait un bon paquet. Ouais.
Ouais, c'est un grand monsieur du jeu vidéo. Puis il y a aussi pas mal de choses sur Océan, un
oui.
éditeur qui aujourd'hui n'est plus. Mais
oh
qui, à l'époque, a fait quand même pas mal de titres assez marquants.
Ouais.
Donc, Pixel Love, 12e édition, 12e volume, dédié, entre autres, à Adventure Island.
Dispo un peu partout.
Exactement. Et d'ailleurs, on peut le voir sur votre blog VIP, hein, ouais. le blog de Pixel Love, où à ouais. chaque fois, vous faites sacrément bien vivre, je trouve, l'aventure de Pixel Love. On voit un petit peu toutes les coulisses
du
MOOC.
Ouais. Bah on essaie de faire les choses bien, voilà.
Et bah c'est
plutôt réussi.
C'est plutôt réussi, effectivement.
Merci.
Mais Florent, tu n'es pas seul, car autour de la table rouge laquée, il y a bien évidemment Julo.
Bonjour, chers amis.
Et tu nous as préparé toi aussi un petit listing assez sympathique.
Ouais, ouais,
et
ouais.
D'ailleurs, pour ceux qui ne font que nous écouter et qui n'ont pas vu sur Gameblog les photos, t'as reproduit une petite Dreamcast en papier.
Voilà, ça m'amusait. En faisant des petites recherches sur Sega Gaga, dont on parlera tout à l'heure, j'ai imprimé ce petit, qu'on appelle ça, les...
Les Papercraft.
Les Papercraft, voilà, un Papercraft de la Dreamcast version version Sega Gaga, mm-hmm. toute noire.
Qui ressemble en fait à
une
Mega Drive.
Voilà, inspiration Mega Drive.
On comprendra mieux pourquoi tout à l'heure dans le podcast. Raon aussi.
Hello.
Tu es prêt ?
Oui.
Fin prêt ?
Oui.
Totalement prêt ?
Ouais.
Et puis on a aussi Tiger Suplex.
Hello.
Qui va nous révéler plein de petites anecdotes, par exemple sur un certain jeu qui s'appellerait Love Plus.
Oui, tout à fait.
Et franchement.
Dont il est accro ?
Absolument pas.
Mais par contre, il y a des anecdotes avec Suda 51,
c'est
Kojima
ça.
Et des gens qui se marient virtuellement. Enfin, vous allez voir qu'effectivement, le Japon, ou en tout cas les Japonais, parfois pètent les plombs littéralement avec certains jeux vidéo. En tout cas, l'émission 142, eh bien, est partie. Alors, pour commencer, Florent, il y a un terme que tu aimerais nous expliciter un petit peu et qui regroupe finalement un petit peu tous les titres dont nous allons parler pendant cette heure de podcast. Il s'agit des kusoge.
Ouais, exactement.
De quoi s'agit-il ?
Bah en fait, Gameblog, en m'invitant à participer à ce podcast, me disait donc le thème, ça va être le Japon pète les plombs. Donc ça tombait bien parce qu'au Japon, justement, il existe différentes nominations pour parler des jeux différents genres. Et il y en a un qui ressort un petit peu du lot parmi d'autres et qui s'appelle Kusoge. Mmh. Donc Kusoge, pour ceux qui connaissent, parce que je suis certain qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà, c'est la contraction de deux mots, Kuso et Game. Kuso, donc littéralement, c'est merde, et gay, donc c'est game, donc le jeu de merde, voilà, ouais. Très, très simplement. Donc en fait, c'est un mot qui est né en 85, début 86, dans Famitsu, dans une cross review pour un jeu Famicom, un jeu de Sunsoft. Et depuis, en fait, il a été régulièrement utilisé. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce terme, c'est que c'est pas forcément, comme on pourrait le croire, de mauvais jeux. Mm-hmm. En réalité, ça peut être aussi d'excellents jeux, mais avec, si tu veux, des tendances un peu bizarres. Donc là, on va le voir dans le podcast tout le long, des jeux totalement barrés. Et souvent, il vaut mieux faire un kusoge qui soit bon plutôt qu'un bon jeu, mais qui soit un peu insipide. Mm-hmm. En tout cas, pour les éditeurs, il y en a beaucoup qui ont ressenti ça comme ça, mm-hmm. et qui faisaient exprès de faire du buzz en faisant un gros kusoge qui marchait bien, plutôt qu'un jeu, un gros blockbuster, mais qui
ça,
marchait
ça,
bien.
Ça veut dire en fait des petits jeux barrés, plus que des jeux de merde, en fait, finalement.
Voilà, mais ça, ils utilisent le terme, enfin, il y a d'autres termes comme bakage. Donc les jeux totalement crétins, ça rentre un petit peu dans la même ligne, mais ils ont tout regroupé dans le sens de sous le terme kusoge, quoi.
Ok,
d'accord. Alors on va commencer avec notre premier titre qui est sorti en 1984 en arcade, et il s'agit de Shin Yuchain Torukun.
Oula, d'accord, tu commences par un titre à moi, ça. Ouais, en fait, c'est un titre super obscur, hein, qui est jamais sorti chez nous, malheureusement. La prononciation, c'est...
C'était bien ?
Non.
Très bien.
C'est Shin Yuchain Torukun. Et ça veut dire, bah, littéralement, Toru, mm-hmm. Le nouvel employé.
D'accord.
Donc, en fait, c'est un jeu d'arcade sorti en 84 par Konami, qui a été adapté sur SG-1000. C'est une itération de la Master System au Japon. Et en fait, l'action se passe dans un bureau japonais, qui ressemble plus à une salle de classe d'ailleurs. Et c'est un nouvel employé qui en a marre de faire des heures sup alors qu'il a un rendez-vous avec sa petite amie. Ouais. Donc il a qu'une envie, c'est de se barrer. Donc un peu à la Metal Gear Solid, il doit se barrer sans se faire voir du bureau. Mais il doit donc zigzaguer entre les bureaux et récupérer des cœurs, les cœurs de sa copine. Et quand il a récupéré un certain nombre de cœurs, il y a la porte qui s'ouvre. Mais le problème, c'est que dès qu'il se fait voir par le boss qui est au bout du bureau, le boss, il réplique, il essaie de le frapper avec différents objets, que ce soit des battes de baseball, enfin, c'est totalement barré.
C'est pas une sorte de Pac-Man un peu déguisé ?
Non, pas tout à fait, non, c'est pas... Enfin, oui, finalement, quand on y réfléchit, ça fait un peu penser à Pac-Man, mais la mise en scène est un peu différente. Et ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que, en fait, ce fameux Torukun, quand il arrive à un bureau qui est vide, il s'assoit et puis le boss il repart comme si de rien n'était, tu vois. Et quand il arrive à sortir la porte du bureau, il se retrouve dans le couloir, mais là c'est les autres employés, genre la nana qui fait le ménage qui lui court après avec son balai.
D'accord.
Enfin, c'est un jeu totalement totalement barré. Puis il y a des tas de petites petits clins d'œil, en fait. À l'époque, en tout cas dans ces années-là, en 84, les salles d'arcade, elles étaient pleines de salariés au Japon, qui n'allaient pas au boulot, justement. Ils passaient leurs heures, ils étaient censés être dehors à faire des trucs, et ils allaient dans les salles d'arcade. Donc c'était un jeu qui leur était destiné à l'origine. Et enfin, voilà, ce genre de jeu, on a eu ça en 84. Ça a commencé très tôt, quoi, donc les jeux tirés par les cheveux, quoi.
Et puis ça s'est continué très rapidement, hein. On repart en 86, désormais, sur NES, avec un jeu... Vous allez comprendre et vous allez reconnaître surtout le nom. C'est un réalisateur bien connu en France et forcément aussi au Japon. Takeshi Kitano no Shōsenjō.
Ouais, donc Takeshi no Shōsenjō, c'est, si tu veux, c'est littéralement, ce serait un petit peu les défis de Kitano. Mm-hmm. Donc ça aussi, c'est considéré comme le plus gros kusoge de toute la Famicom.
Ouais.
Et alors, pour différentes raisons, Takeshi Kitano donc a participé directement aux idées, et les réalisateurs, j'ai oublié l'éditeur d'ailleurs, mais ont accepté de mettre toutes ces idées en application.
Alors, on rappelle juste une chose, c'est qu'en France, beaucoup de personnes connaissent Takeshi Kitano comme un réalisateur de films, parfois même un peu d'auteur, assez émouvant, très poignant. Au Japon, c'est radicalement différent. Ils connaissent un petit peu moins ces films, mais ils connaissent plus l'animateur, un peu le Laguerre national, quoi.
C'est un humoriste. C'est un homme aux multiples personnalités.
C'est Béat Takeshi.
Il a commencé quand il faisait du Manzai, et on l'appelait à ce moment-là Beat Takeshi, parce qu'il faisait partie d'un groupe de Manzai. C'est deux comiques, en fait, qui se renvoient la balle. Et un duo comique, quoi, voilà. Et il y avait donc Beat Takeshi et Beat je sais plus qui, d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens.
Moi je sais plus, mais...
Et enfin bref, Beat Takeshi, c'est son nom un peu de scène pour tout ce qui va être délire, etc. Mais quand il est au cinéma, il est toujours crédité en tant que Takeshi Kitano. Enfin, Kitano Takeshi, d'ailleurs, on dit plutôt dans les crédits en tant que réalisateur. Mm-hmm. Et quand il est acteur dedans, il apparaît sous Beat Takeshi, par exemple. Tu vois. Donc, et ça, c'est un truc complètement assumé. Mais il est un peu barré, ce mec, hein, à l'image du jeu.
Il a fait un peu Florent. Tout. Hein. Il a été chroniqueur, il a été animateur, il est peintre aussi. D'ailleurs, les expos à
il
Paris ont eu beaucoup de succès. Donc, il a fait beaucoup de choses. Et donc, il a participé à l'élaboration d'un jeu totalement barré. Dans lequel il y a différentes épreuves à faire. Et donc, par exemple, il y en a une, c'est une des plus représentatives. Sur l'écran, l'écran devient tout noir et il y a marqué attends une heure. Donc, on attend une heure sans rien faire.
Oh merde.
Et ça se passe, on va dire, en gros, après 3 ou 4 heures de jeu, sans s'arrêter. Et quand t'as le malheur d'appuyer sur le bouton, tu recommences tout à zéro.
Non.
Si, si, et c'est pas des blagues. Bon, il y en a d'autres, il faut aller frapper son boss au boulot. Il y a le vocabulaire qui est utilisé est assez cru et révérencieux, on va dire. Il y en a un autre, il faut aller chanter au karaoké avec le micro. Après, on se retrouve dans un shoot'em up où t'es en delta plane. Enfin, il y a des tas de trucs complètement débiles. Et lui-même, il annonçait qu'il voulait faire le jeu le plus improbable du jeu vidéo. Mmh. Et ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que c'est un jeu qui est considéré comme interminable. C'est-à-dire que le jeu est tellement compliqué que de très rares personnes, enfin personne n'est jamais réussi à le terminer. Et il y a une anecdote assez marrante, j'ai rencontré la personne qui est à l'origine de cette anecdote. Il y a eu en 86 un bouquin de Solus qui est sorti sur ce jeu, parce que le jeu s'est bien vendu. Mais vous savez, les jeux de Solus, hein, comme beaucoup, ils sont faits en réalisation avec les éditeurs. Donc, ils avaient différents détails, des screenshots, etc. Donc, le type, il n'avait pas fait le jeu, quoi.
Ouais.
Mais dans le bouquin, il explique comment arriver jusqu'au bout. Le problème, c'est que le jeu, il est interminable. Et la plupart des gosses qui ont acheté la Solus, mais qui n'arrivaient pas du tout, même en suivant à la lettre les consignes, n'arrivaient pas à le terminer. Donc, la maison d'édition, pendant des semaines, elle a été assommée de coups de téléphone d'enfants qui n'arrivaient pas à répondre. Ils en ont eu tellement marre de recevoir des coups de téléphone qu'ils ont dit que l'auteur du bouquin était mort. Enfin, Donc, voilà le genre de choses qu'on a eu avec ce jeu. C'est pour ça qu'il est devenu aussi un petit peu culte, ce jeu. Quoi.
On devrait faire comme ça, en fait. Dès qu'on se fait flammer sur les forums, on machin, on dit non, bah, je suis désolé, il est mort. On peut pas répondre.
Donc voilà.
Effectivement, en tout cas, Takeshi Kitano était déjà précurseur, hein, puisque c'était finalement un peu les débuts du jeu vidéo. Il avait envie d'y laisser son empreinte, et une empreinte assez particulière. En 88, toujours sur NES, il y a un jeu, Florent, qui te tient particulièrement à cœur. En lui-même, il n'est pas complètement délirant, mais apparemment, il a une fin incroyable. Et je vais te laisser en prononcer le nom, ça vaudra mieux.
Alors, le jeu, oui, s'appelle Erika to Satoru no Yume Boken.
En vous remerciant.
Donc, littéralement, ça veut dire l'aventure onirique d'Erika et de Satoru. Bon, dit comme ça, en fait, c'est un jeu un peu insipide, mais si je l'ai choisi, en fait, dans ma sélection, c'est parce qu'on a découvert un truc en 2005 sur un forum japonais qui a plutôt fait parler de lui. Donc, ce jeu-là était développé en 88 par Namco sur Famicom. Et c'est ce qu'on appelle un text adventure, hein, ou un digital comic, si vous voulez. Donc, c'est une aventure de textuelle avec des illustrations, puis on avance en faisant des sélections, etc. Enfin, c'est un roman interactif. Bon, c'est un jeu assez banal. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le jeu. Sauf que, après le staff roll, quand on a terminé le jeu, en entrant une combinaison un petit peu particulière, dont malheureusement, je n'ai pas retrouvé la formule, on tombe sur un easter egg totalement incroyable. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit tout de suite. Donc, on se retrouve devant, avec la musique de Karate Kid, qui est pas du tout donc un jeu, qui n'a rien à voir avec ce jeu-là. Mm-hmm. Et puis, il y a un texte qui finit par défiler. Et alors, c'est ce texte, en fait, qui est impressionnant, puisque c'est un règlement de compte qui a été caché par un des développeurs, qui casse du sucre sur toute l'équipe qui a développé le jeu. J'ai retrouvé la vidéo donc sur YouTube, donc je me suis amusé à le retraduire spécialement pour mais alors vous allez, j'espère que vous mettez un
avertissement 18 plus.
On va le faire tout de suite alors. 18 plus.
Si tu as moins de 18 ans, bouge-toi les oreilles pendant combien de temps à peu près ? Une minute ?
Ouais, ça dure pas trop. J'ai pas tout traduit parce qu'il y en a beaucoup trop, donc j'ai pris que la meilleure partie, on va dire.
Allez, c'est parti.
Alors, voilà, ça commence comme ça. Ah, je ressens de la nostalgie en écoutant cette musique. Que c'était bien à cette époque. Les gars qui bossaient étaient tous des pros. Pas comme tous les types d'aujourd'hui. Mais ouf, j'en ai fini avec ce jeu. Et ne croyez pas que ça restera un bon souvenir. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire quelques remerciements. Tout d'abord, Kaoru Ogura, la garce qui s'est barrée qu'un mec pendant le développement. Oui, toi, la salope. Tu pourrais prendre une douche avant de venir au boulot. Surtout après avoir baisé 6 fois avec ton mec la veille. Ensuite, toi, Tatsuya Ohomachi, tu m'as gonflé tout le temps à rigoler comme un débile pendant le taf.
Ah, c'était pas moi.
En plus, tu t'es permis d'arriver à la bourre comme si de rien n'était le jour où on devait rendre une ROM de test super importante. M'apporter un bouquin de cul ne sera certainement pas suffisant pour que je te pardonne. Bon, je vais arrêter là parce que ça continue comme ça. À la fin, il se permet quand même de faire de vrais remerciements avec différentes personnes. Mais voilà, il a prononcé des attaques assez violentes qui n'ont jamais été découvertes jusqu'en 2005. On ne sait pas qui a révélé vraiment le secret. C'était peut-être le même mec. En fait, pendant toutes ces paroles, il y a un avatar qui n'arrête pas du tout dans le jeu avec des lunettes de soleil et qui se fait appeler Hidemushi. Hidemushi, ça peut avoir plusieurs sens, mais c'est l'un des sens principaux, c'est l'insecte qui se cache. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on pourrait traduire ce truc-là. Donc voilà, on ne sait pas qui est responsable de ce truc-là, mais une chose est sûre, c'est que depuis 2005, ce jeu est plutôt recherché au Japon.
Ah bah du coup, ouais.
Et qu'il a marqué, en fait. Donc, j'ai choisi ce jeu-là parce que quand le thème, c'était le Japon se lâche, le mec s'est carrément lâché, quoi.
Carrément.
Donc, voilà.
Effectivement, il a fallu attendre jusqu'en 2005 avant que ça sorte.
Avant que ce truc-là sorte. Donc voilà, en sur fait, Famicom, était... Erika Tosatoru no Yume Boken. Voilà.
Il était dégoûté parce que personne ne l'avait vu et à un moment il avait non mais bordel, je veux régler mes comptes pour de vrai quoi. Mais
genre sur son lit de mort, il a fait une petite code à quelqu'un.
Mais pour savoir qui c'est, en fait, tu fais la déduction, tu regardes tous ceux qui ont été
cités. Ceux qui sont pas cités.
Et celui qui reste.
C'est ça. Et tu les soustrais au générique.
Voilà.
Bon, bah ça c'est clairement une bonne anecdote. Alors est-ce qu'il en sera de même pour un jeu sorti aussi en 88, cette fois-ci en arcade et sur Mega Drive, un jeu qui s'appelle Tchernov.
Alors, je m'excuse d'avance pour tout le monde parce qu'en fait, on a tous fait une sélection et puis c'est les miens parce qu'ils apparaissent en premier.
C'est ça, parce que c'est un ordre chronologique.
Parce que j'ai super l'impression de monopoliser le micro. Et
puis c'est passionnant, mais effectivement, on va remonter là de 84 jusqu'à 2010 parce que cette année, il y a aussi des jeux un peu barrés.
D'accord, donc en gros, je parle les 5 premières minutes du podcast, puis après, je vais plus rien dire.
Ah, je suis sûr que moi, tu vas interagir, tu vas voir.
Ouais, donc en fait, il y a un jeu qui est sorti sur Mega Drive, Atomic Runner, ça parlera certainement au vieux briscard de Gameblog et qui est connu au Japon en arcade aussi. Sous le nom de Tchernov. Donc c'est sorti chez Detaist en 88 et ce jeu là en fait il a plutôt marqué les Japonais pour plusieurs raisons. Déjà parce que le jeu, c'est un jeu d'action où le scrolling défile indéfiniment. Il y a un petit gars qui court avec une très jolie animation d'ailleurs et qui tire sur tout ce qui bouge. Donc on peut pas l'arrêter, il court indéfiniment. Et le background du jeu en fait ça se passe après une explosion atomique. Donc le titre Tchernov, ça fait forcément penser un petit peu à Tchernobyl. Le problème c'est que ce jeu là il a plutôt marqué les Japonais parce que vous savez qu'au Japon on rigole pas trop avec les bombes atomiques, les explosions atomiques. Donc déjà faire un sujet sur un thème comme celui-là, c'était plutôt entrer dans un tabou. Et puis en plus c'est arrivé pile poil au moment des explosions, parce que c'était en 88, de Tchernobyl quoi. Donc ça a fait plutôt mauvais genre, on va dire, de faire de l'humour ou de rigoler, de faire un jeu sur ce sujet-là. Donc le jeu s'est plutôt fait... ils se sont fait casser du sucre, en tout cas détailliste, sur ce jeu, qui était pourtant très bon. Et il a répondu à de nombreuses interviews, notamment à la télévision, le big boss de Detaist, où il affirmait de la façon la plus honnête du monde, non, rien à voir avec Tchernobyl. Donc quand tu regardes la page de présentation, il y a une faucille, une croix, un marteau, ça s'appelle Tchernov, ça arrive pile poil en même temps. Donc on a du mal à le croire, même si après d'autres sources affirment que le jeu a été développé avant, évidemment, Tchernobyl, suite aux premiers incidents qu'il y avait eu, puis ils avaient eu l'idée en fait de faire ça à ce moment-là. Enfin, c'est un jeu totalement barré aussi, puisque tu tires sur tout ce qui bouge contre des zombies. C'est le thème en tout cas est comme ça. Et voilà.
Donc, on ne sait pas trop, on hésite, on state. Mais
c'était de l'anticipation en fait.
Exactement.
Et Tom Clancy n'a pas participé au l'écriture du scénario peut-être.
J'en sais rien, mais en tout cas les gars de Detaist c'était quand même bien lâché sur ce jeu, dans le sens où ils ont osé franchir un tabou quoi.
Mais ceci dit, les explosions atomiques sont quand même un peu partout dans la culture japonaise de... Après, peut-être qu'ils rigolent pas avec, mais en tous les cas, on peut pas dire que c'est pas un thème récurrent dans beaucoup d'œuvres de.
Ouais, que ce soit les Godzilla et compagnie, ouais, c'est clair. Mais là, bon, ils avaient visiblement le fait que ce soit Tchernobyl, l'explosion nucléaire. Enfin, je crois qu'ils ont fait une accumulation de choses.
C'est peut-être juste pas de bol, hein.
C'est peut-être juste pas de bol.
On ne le saura
jamais.
Jamais, probablement. Ou peut-être si un jour sur YouTube, une gorge profonde va révéler les choses comme on l'a vu pour le Erika Tosatoru no Yubunken. Allez, on va passer le micro à Tiger Suplex qui va nous parler d'un jeu qui est sorti en 1990 en arcade, un jeu qui s'appelle Trio the Punch,
qui est un beat'em all qui, quand on le voit de premier abord, a pas l'air totalement loufoque. C'est un beat'em all avec un décor assez post-apocalyptique, qui est pas très impressionnant. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, on a l'impression que le développeur, au cours du développement, ont dû péter des plombs. Parce que c'est un beat'em all donc très classique. Et quand on arrive par exemple devant un des premiers boss, on se retrouve en fait devant la mascotte de KFC. Vous savez, le petit vieux avec la moustache blanche et tout. Le boss.
C'est pour ça que tu bouffais du KFC ce midi, c'était pour la documentation, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Je travaille les trucs.
Pas mal, non, je suis impressionné.
Donc, on se retrouve aussi face à un mannequin éco-géant, un espèce de pied divin géant comme boss, et qui dénote totalement avec le reste
avec
du
le
jeu.
Reste qui est plus plus sérieux, quoi.
Ah, puis qu'il y a un beat'em all de piètre qualité. il y a aussi les magies. Peut-être Florent connaît un peu.
Oui, tu dis.
Non,
sur les magies.
Sur le jeu, non. Sur les magies. Non, non. Un truc qui est pas mal du tout avec les magies. En fait, on a le choix au départ entre trois personnages. Mm-hmm. Donc, comme dans tous les
Golden Axe et l'autre,
Street of Rage, Golden Axe ont une magie particulière. Sauf que quand ils déploient leur magie, la tête du personnage en fait se transforme en SD et prend une tête un peu les grimaces à la Onizuka, des trucs incroyables pour déclencher sa magie. Donc voilà, un beat'em all très classique, mais où on sent que les développeurs par moment sont partis un peu en vrille. Et ça, envie de rigoler.
Et c'est ça, et c'est ça qui faisait plaisir aussi dans ce genre de jeu.
Exactement.
Ça se prenait pas au sérieux du tout. C'est parfois, et on en reviendra un petit peu dans ce podcast tout à l'heure, c'est un peu ce qui nous manque sur certains jeux.
Et oui.
Qui aujourd'hui, on est dans un univers du jeu vidéo quand même assez sérieux. Hein. On rigole pas tous les jours non plus, manette en main. En 1992, sur Super CD-ROM NEC, un jeu qui est sorti, Florent, il s'agit de Show Aniki.
Ouais, Cho Aniki, c'est un jeu culte pour beaucoup. En tout cas, ceux qui ont beaucoup joué à la PC Engine à l'époque s'en souviennent. Mm-hmm. C'est aussi un grand représentant, on va dire, du kusoge, du bakage au Japon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shoot sorti en 92, effectivement, sur Super CD-ROM NEC, par une société qui est aujourd'hui défunte, qui s'appelait Masaya. Mm-hmm. Et alors, quel genre de jeu c'est? En fait, c'est un shmup, un shoot 'em up. Sauf que les héros, les ennemis, tout ça sont des hommes nus et hyper bodybuildés, tout chauves. Les chansons, c'est des chœurs, enfin les thèmes musicaux, c'est des chœurs d'hommes très virils, on va dire.
Genre chœur de l'armée rouge.
Ouais, mais en plus délirant, quoi, quand même. Ils se lâchent un petit peu plus que les chœurs de l'armée rouge, et voilà. Ils ont bu beaucoup de vodka, exactement. Et ce qu'il y a d'assez marrant, en fait, c'est tous les sens cachés qu'on y trouve. En fait, le jeu prend place sur une planète et du jour au lendemain, il y a une invasion d'une planète extraterrestre. Le grand méchant très bodybuildé de la planète voisine en fait se rend compte que sur sa planète les protéines commencent à manquer pour entretenir les muscles des beaux hommes.
Ah, les protéines.
Et donc ils vont chercher les protéines sur les autres planètes. Mais bien sûr, ils vont pas se laisser faire. Donc on a deux personnages qui s'appellent Samson et Adon. Qui vont eux aussi sortir leurs gros muscles pour aller régler leur compte avec les autres. Et on obtient un espèce de melting pot de gros muscles lubrifiés avec des boss totalement délirants où on voit sortir du corps d'un boss un espèce de gros phallus avec à la place du, on va dire, du gland, une espèce de tête de chauve, pareil, tout. Enfin, c'est extrêmement malsain. mais c'est un jeu culte hein, à ce niveau-là. Ouais. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que comme beaucoup de jeux, en fait, dont les noms sont en japonais, on connaît généralement très peu la signification. Donc, Cho Aniki, c'est un jeu qui est assez connu chez nous, mais pourtant, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Et alors, Aniki, si vous avez vu un film de Kitano, justement, qui était traduit « Mon frère », donc Aniki, c'est effectivement, littéralement, ça veut dire « grand frère ». Voilà, c'est un des termes qui est utilisé pour dire « grand frère ». Mais c'est aussi un terme qui est codifié, en tout cas dans la communauté homosexuelle du Japon. Mmh. Et alors, Aniki, ça veut dire, en fait, c'est celui qui fait la pénétration dans la relation sexuelle.
C'est le pénétrant, quoi.
C'est le pénétrant, exactement. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que le cho, c'est comme pour nous quand on dit trop. Voilà, c'est un superlatif. Ouais, je suis trop content. Bah, au Japon, ils mettent des cho.
Je suis trop pénétré. Je suis trop pénétrant.
C'est presque ça, en fait. Et bah, justement.
C'est chaud, hein.
En fait, c'est un peu casse-cul, mais on savait pas avant de le faire.
C'est presque ça. Donc, cho aniki, en fait, c'est parmi dans la communauté homosexuelle, cho aniki, ça veut dire c'est un mec, c'est un bon coup, quoi, en gros.
D'accord, ok.
C'est trop fort, mon frère, quoi, en gros. Et alors, ce titre, en fait, la première fois qu'il a été annoncé dans les journaux, genre Famitsu, etc.
Scandale.
Ça a été un petit peu un scandale. Donc, il y a eu des associations, justement, d'homosexuels qui se sont plaints parce que c'était quand même très caricatural, on va dire. Et ils ont exigé que le titre soit changé. Donc, la direction de Masaya a demandé à ce qu'ils changent le titre. Et ça aurait pu devenir, je vous le traduis directement, ce sera plus simple, le super shooter des hommes nus musclés. Voilà.
Ça aurait été vachement mieux.
Ça aurait été vachement mieux. Mais disons qu'il n'y avait pas le sens caché du c'est genre « t'es un trop bon coup, mon frère
ouais. ».
Et donc, le staff, par contre, du développement a fait pression sur la direction. Et finalement, ils ont réussi à sortir leur Cho Aniki. Mais voilà. Nintendo le savait-il ? Je ne sais pas. En tout cas, il est dispo sur les virtuelles consoles, je crois.
C'est pas possible.
Je crois que si, hein, même chez nous. Au Japon, où ça, c'est certain, mais il me semble qu'il est dispo chez nous.
Ça, c'est
aussi
une petite pépite qu'il faudra qu'on récupère.
Ouais, quoi, ouais, il faut essayer. C'est pas un shoot monstrueux, mais en tout cas, vous allez passer un bon moment à rigoler, quoi. Les musiques, elles valent le coup. Hein.
Et puis, alors, entre ça et Muscle Mars, dont on va reparler dans quelques minutes,
les éléments chez Nintendo, ouais.
Ça, ils vont se faire plaisir, finalement, sur la virtuelle console. Allez, on va passer à un autre registre. Mais néanmoins, on reste près des différents organes du bas du corps.
C'est ça, ouais.
Parce que Tiger Suplex, tu vas nous parler d'un jeu qui est sorti sur PC Engine en 1992. Et le titre, là, pas la peine de parler japonais pour le comprendre, il s'agit de Toilet Kids.
Exactement, donc l'histoire est assez formidable hein, dans Toilet Kids. C'est un petit garçon donc, qui est sur le trône en train de faire ses petites affaires et qui va se retrouver transporté littéralement dans le siphon de ses toilettes.
Avalé.
Avalé par le siphon de ses toilettes, exactement.
Mais c'est un vrai cauchemar ça, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cauchemar de ça.
C'est vrai. De se faire aspirer.
Oui, de se faire aspirer pendant ce moment privilégié qu'ils ont avec eux-mêmes.
Et oui, bah justement, ça, c'est pas rigolo parce que quand
ça t'est arrivé, alors vas-y, raconte-nous. Ah
voilà, oui, des crocodiles, des trucs comme ça. Non, mais quand il se retrouve donc dans ce monde des toilettes, et ce monde des toilettes est plutôt inhospitalier. Donc,
c'est joliment dit.
On sait ce qu'on y trouve en fait. Hein. Et donc le jeu prend la forme d'un shoot 'em up. Donc on est le petit gamin sur les toilettes, et les différents ennemis, à la place d'être des aliens comme dans R-Type ou ce genre de choses, bah là c'est littéralement des petites crottes, des mouches vertes.
Des mouches à merde. Ouais,
voilà. Des mouches vertes, des mouches à merde. Ouais. Plein de bestioles qui défèquent. Tout en cœur sur le personnage.
Il y a aussi, pour paraître encore un peu cru, mais des petits culs avec des petites quéquettes. Hein,
c'est
dessus,
ça, ouais.
C'est
ouais,
assez bizarre.
Qui volent d'une
sprite,
façon assez sympathique, ouais. Et qui lâchent des petites gouttes de pipi qu'il faut esquiver.
Qui dodeline de la tête.
Qui dodeline, exactement. Qui dodeline de l'urètre.
C'est ça.
Voilà, tout à fait.
Il se secoue, quoi, comme on dit. Quoi.
C'est ça. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore grand chose à dire sur Toilet Kid
tout, écoute, je bois tes paroles.
Fais attention à ce que tu bois parce que.
Je suis hypnotisé, mais je me rappelle, moi j'avais vu ce jeu dans Joypad à l'époque et je regardais, je lisais le test, je crois que c'était Trace qui l'avait testé ou probablement
Greg. Je crois que c'était Candy peut-être.
Je sais pas, mais.
En tous les cas, il en a fait un de ses pitchs anxiogènes évidemment.
Exactement, et c'est vrai que j'étais complètement halluciné et ça me faisait bien marrer de me dire qu'on pouvait quand même commercialiser ce genre de jeu.
Bah oui, c'est ça. La grande question, c'est est-ce que ça sortirait aujourd'hui ?
Ah ben ça, franchement, je ne sais pas.
On peut en douter.
Et ce serait quel ratification en Peggy, ce serait quoi ?
Ah non, c'est très pipi caca. Je pense que honnêtement, ce serait pour les gosses. Hein. Mais bon.
Dès que tu montres un sexe, c'est 18+.
Oui, voilà, il y a quand même les petits phallus, les petits.
Ah moi, c'est les petits phallus, c'est 18+.
Hein. Puis en HD, en 3D, maintenant, ça c'est un autre effet, quoi.
C'est tout le pas. Ouais, c'est tout le
dilemme.
Tout le dilemme.
Alors en tout cas, on parlait de shoot là à l'instant même, mais un shoot particulier. On avance un petit peu dans le temps en 96 et avant ça en 90 en arcade avec la série des Parodius et des Sexy Parodius donc en 96 bien plus tard. C'est vraiment une série de shoot qui est complètement délirante. Florent.
J'ai pas préparé grand chose, mais c'est vrai que Konami et Hudson Soft, parce que c'est pas tout sorti en arcade. Mm-hmm. J'allais dire une bêtise, mais oui, je pensais donc à Parodius et les parodies de jeux Konami. Hein,
tout à fait, ouais. Ouais, tu retrouves dans. Mais alors, le problème, c'est que moi, j'ai pas eu de PC Engine dans ma vie de gamer, et c'est un grand regret. Et je regardais toujours ce jeu-là, et c'est la première fois que j'ai eu un petit contact comme ça avec un jeu un peu parodique justement. Mais voilà, où il y avait ce genre d'humour cross jeu comme ça qui apparaissait, et donc ça me fascinait un peu. J'ai toujours eu envie d'y jouer, alors c'est pour ça que je peux pas vous en dire grand chose parce que j'y ai pas du tout joué. Mais cela dit, voilà, c'était un melting de différents jeux de Konami que tu retrouvais à la sauce shoot 'em up comme ça, avec des personnages, etc.
On retrouve en fait Vic Viper, le petit vaisseau du nom du jeu que j'ai oublié d'ailleurs, qui est cultissime, que je devrais connaître.
Gradius
voilà. Évidemment, donc il y a Vic Viper de Gradius et tout est basé sur le même système que Gradius, donc c'est un shoot 'em up.
Il y a tout, il y a du Twinbee.
Tout à fait, il y a les personnages de Twinbee et les personnages de Parodius. On peut choisir donc à la place des petits vaisseaux type Vic Viper. Il y a dans la version Super NES à laquelle j'avais joué, on peut choisir un poulpe, on peut choisir aussi celui qui était peut-être le plus sympathique, un pingouin. Et il faut savoir que tout l'univers est complètement débile.
Il y a des danseuses gigantesques.
C'est l'image dont tout le monde se rappelle.
Il y a un espèce de chat corsaire.
Oui, avec un vaisseau pirate,
c'est
à
ça,
tête de chat.
À tête de chat. Et à chaque fois, surtout quand les ennemis mouraient et explosaient, au lieu de se désintégrer comme dans tous les shoots, là, ils pleuraient, ils faisaient des grimaces de fou. Enfin, c'était vraiment une sorte de Gradius, mais complètement débile.
Ouais. Tout à fait. La version parodique, Parodius, la version parodique de Gradius, en fait.
Et dans le même genre, il y a eu donc Star Parodier. Là, pour le coup, c'est sorti sur PC Engine, parce que Parodius, c'est sorti évidemment en arcade, sur Super Famicom, sur Game Boy, même sur NES aussi. Enfin, c'est sorti sur tous les supports.
Parodius, c'était pas sur PC Engine ?
C'est sorti sur PC Engine aussi, ouais. En U-Card, ouais. Mais en tout cas, il y a Star Parodier, qui est lui sorti uniquement sur PC Engine, sur CD, et qui reprenait le même principe, un shoot, mais dans l'univers Hudson Soft. Donc on pouvait contrôler une Core Graphics, par exemple, on pouvait contrôler un Bomberman... Et puis donc ils avaient chacune la Core Graphics tirait des CD, Bomberman évidemment envoyait des bombes, enfin voilà, c'était tout était parodique et dans l'univers de Hudson. Voilà, ça c'était un petit délire aussi de développeurs japonais à l'époque, quoi.
Et ça reste un très bon shoot'em up, hein, même s'il est parodique, c'est le même concept de Gradius et c'est un très bon jeu.
Il est peut-être dispo sur Virtual Console aussi. Là, voilà, je m'avance pas non plus sur ça, quoi.
On va vérifier ça. En tout cas, en 98, on continue notre petit listing. Sur PS1 est sorti un jeu qui, à la rédaction, ne nous laisse pas indifférents. Oui. Il s'agit de Bishibashi.
Ah oui. Exactement.
Qui est complètement débile. Qui veut ne vous battez pas. Qui Tiger.
C'est tellement bien, Bishibashi.
Ah bah c'est génial. C'est vraiment c'est tout con. En fait, c'est un jeu multi-épreuve. Mm-hmm. C'est un des premiers jeux multi-épreuves dans mes souvenirs, en tout cas. Et donc il était composé de, je sais plus, 200 jeux, un truc comme ça. Donc c'est des petits jeux très très courts. C'est un peu l'ancêtre des WarioWare et tout. Sauf que là c'est multijoueur, donc tu t'affrontes sur des défis complètement barrés, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, empiler les différentes tranches d'un hamburger en allant à gauche, à droite, etc. Mais c'est toujours un jeu de rapidité parce que faut aller plus vite que ton adversaire. Et puis t'as un petit championnat comme ça où tu peux jouer jusqu'à 8 avec à chaque fois des duels. Et voilà, tu dois arriver en haut, ça se joue très vite, très facilement, et puis t'es mort de rire tout simplement en découvrant à chaque fois le jeu sur lequel tu tombes, quoi. Alors au bout d'un moment tu connais les 200 jeux et puis voilà, t'attends, y a toujours un truc qui tourne pour te faire arriver le jeu. Voilà,
on peut jouer au lancer de tarte à la crème avec la mariée,
avec la mariée,
où en fait il y a le mari qui tient la traîne et il faut lancer la tarte à la crème le plus loin possible.
Il y a le mari qui doit se casser la gueule pour laisser tomber
si tu lances pas la tarte à temps, en effet elle se casse la tronche, parce que c'est une jauge en fait, c'est un peu un track and field mais façon mariage.
Et c'est des petits jeux comme
façon
ça,
mariage,
ouais, c'est ça.
Si vous vous mariez, écoutez,
on a rejoué aussi avec Mr. P au petit jeu de rythme, en fait, où il y a trois personnages qui ont une coupe afro et on doit reproduire les combinaisons mélodiques pour les trois personnages, et plus on réussit, plus la coupe afro des personnages grandit. Ouais, sauf que les rythmiques sont complètement diaboliques, c'est-à-dire que ça va à un BPM affolant et c'est impossible de suivre. Et en plus de ça, si on réussit, on voit plus les combinaisons parce que les coupes afro des personnages sont tellement grosses qu'on voit plus rien à ce qu'il y a à l'écran. Enfin, c'est totalement barré. En
barré.
Multi, c'est génialissime, ça va super vite, super,
ouais,
super fun.
Sortir ça et voilà.
Et ouais. C'est dispo sur le PlayStation Store.
Network, ouais.
Ouais, donc on a pu y rejouer, on a beaucoup rigolé.
Ouais,
Bishibashi, en tout cas.
Spécial d'ailleurs, il s'appelle Bishibashi spécial sur la. Non
Oui. Parce qu'en fait, il y a les deux versions, il y a Bishibashi et Hyper Bishibashi, en fait, qui étaient deux jeux différents à l'époque, mais en arcade, et qui ont été collectés
c'est
voilà,
spécial.
Ils étaient mis dans un pack, les deux.
Vous aurez compris, en tout cas, qu'on. On vous le conseille chaudement, d'autant qu'en plus, il est pas très cher hein, sur le PSN.
Non,
il est très drôle. Voilà.
Et alors là, attention. Un grand moment de nostalgie, un grand moment d'émotion, un grand moment de culture vidéoludique, toujours en 98, la Coupe du Monde de foot.
Non, oui,
mais
si.
C'est pas ça, mais il y avait aussi autre chose, la Saturne. Vous noterez à quel point il y a plein de foot ici autour de la table, il n'y a aucune émotion quand on parle de foot, c'est génial. La Saturne, 98, l'emblème de la Saturne, justement, c'est Segata Sanshiro, Shinken Yugi.
Ouais.
Alors en fait, qu'est-ce que c'est ? Parce que toutes ces campagnes de pub, pour ceux qui se rappellent un peu de cette époque-là, c'était stratosphérique.
Donc l'époque de la Saturne, si vous n'avez pas vu les pubs de
Segata
Sanshiro, il faut absolument aller sur YouTube
et tout
regarder. Il y a Bomberman,
Sakura Taizen,
Shining Force, machin. Il y a
le jeu de la Coupe
du
Monde, justement, de Sega.
Ouais, tout à fait. Le jeu de foot.
Rigolote.
Voilà. Et donc c'est un personnage, c'est un karatéka, et c'est devenu l'emblème de Sega parce qu'il essayait d'imposer la Saturne. Et donc
il galérait pas mal.
Ouais, tu le voyais déguisé en un Père Noël, il arrivait chez des petits enfants, il les terrorisait parce que dès qu'il arrivait quelque part, il faisait des prises de judo, il cassait la gueule aux gens, il leur disait achetez une Saturne, bordel. Enfin, tu vois, c'était un peu ça l'idée.
Justement, si c'est un judoka et il impose ça à tout le monde, c'est qu'en fait, le nom Segata Sanshiro, c'est un jeu de mots par rapport à Sugata Sanshiro, qui est l'inventeur du judo. C'est pour ça qu'il est
en karaté. Et la Sega Saturn qui se dit Sega Satan en japonais.
Justement, voilà, j'allais justement rebondir sur ça. C'est plein de jeux de mots ce mot-là. Parce que non seulement c'est ce que tu viens de dire, mais c'est Segata Sanshiro, quand tu le prononces vite, tu fais plus la différence avec Sega Satan Shiro.
C'est Tassan ou Satan.
Voilà, donc en gros, ça veut dire littéralement Sega Satan Shiro, ça veut dire joue à la Sega Saturn.
D'accord.
Donc c'est un jeu de mots de plein de trucs. Donc il y a le judoka.
Je l'aime d'autant plus, je crois.
Et voilà, donc c'est pour ça que tout le monde l'aime. Ouais.
Et donc le jeu, parce que finalement, ça a eu tellement de succès, ça a tellement fait marrer les gens qu'ils ont décidé de sortir un jeu sur Saturn. Et c'est simplement toutes les épreuves sont tirées en fait de différentes pubs, voilà, mises en scène comme ça, avec des petites épreuves et tout ça. Donc c'est super rigolo, c'est super culte. Je n'ai pas ce jeu, mais j'aimerais trop l'avoir un jour. Je sais pas s'il est d'ailleurs ou quoi, mais bon.
Je pense.
Ouais, je dois être assez rare.
Et pour la petite anecdote, juste l'hymne de Segata Sanshiro, donc qui est très héroïque. Il faut savoir que moi, avant d'aller en partiel, je me mettais l'hymne de Segata Sanshiro. C'est un peu mon Eye of the Tiger. Hein. Ça me motivait à fond la caisse. Voilà.
Je comprends bien. C'est super héroïque.
Et tu l'as eu ton partiel ?
Oui, j'ai réussi brillamment.
Grâce
à Segata, peut-être.
Merci, Sam.
En tout cas, c'est clair qu'il a résonné pendant très longtemps dans les murs de la rédaction.
Il faut absolument
à l'époque
voir d'ailleurs la première pub de la. Je sais pas si c'était la dernière pub de la Saturn,
c'est la dernière pub de la
Dreamcast.
Où il meurt.
Où t'as Segata Sanshiro qui se. Voilà, qui. qui
détourne un missile qui.
Voilà, qui détourne un missile qui vient de chez Sony, voilà, et qui se dirige vers chez Sega pour anéantir le projet Dreamcast, etc.
Il part dans l'espace, il explose et tous les employés de Sega sont là. Sega Satan
is a hero.
Voilà.
Et je crois qu'il y a une petite phrase à la fin, genre où il parle, il dit Sega Satan sera toujours dans vos cœurs, ou un truc comme ça. Enfin, super héroïque.
Ouais.
Florent.
Non, rien. Non, je trouvais c'était très bien dit. Tu fais très bien les pubs.
je t'en remercie. En tout cas, mieux que mon accent japonais, malheureusement. Néanmoins, le nom que je vais pouvoir citer là est beaucoup plus simple à prononcer pour un jeu, j'ai envie de dire, encore plus barré que Segata Sanshiro. Il est sorti sur Dreamcast, une autre console Sega qui finalement est assez habituée des petits délires complètement ludiques. C'est en 99, l'année suivante, et tout est parti d'une sorte de similitude avec le projet Blair Witch, quelque chose qu'on a voulu faire croire aux gens. Il s'agit d'un personnage totalement déroutant, où franchement parfois lorsqu'on le regarde, on est assez mal à l'aise. Il s'agit de Seaman.
Ah, oh, Seaman.
Julo.
Quelle horreur.
Seaman,
c'est un poisson à tête humaine. Et en gros, effectivement, comme tu le disais, quand ils l'ont lancé, ils ont fait une campagne de pub proche de celle de Blair Witch, c'est-à-dire qu'on faisait croire aux gens que un scientifique avait
français,
vraiment
d'ailleurs.
Français avait découvert le premier Seaman, etc. Que c'était des poissons à tête humaine, etc. Il paraît qu'aujourd'hui au Japon, il y a encore des gens qui pensent que le Seaman existe.
Bah toi, tu penses bien que Michael Jackson est vivant, donc bon.
Ouais.
Tout est possible. Là,
Ok, bref. Donc en gros, c'était un pet game, quoi. Et c'était un poisson qui vivait dans ta télé, comme dans son aquarium.
Il n'était pas poisson au début. Hein. Au début, c'est une chrysalide,
tout à fait.
Une espèce de petit ver dégueulasse.
Voilà, il va falloir le faire grandir, etc. Et le jeu était livré avec un micro que tu branchais dans le port VMU de la Dreamcast pour que tu puisses parler au Seaman et lui apprendre voilà, à communiquer avec toi et par là même le faire évoluer voilà, pour qu'il finisse, je crois, par devenir totalement humain. Mais alors,
une espèce de petit bébé,
on ne suis jamais allé au bout.
Chelou.
Et ouais, il était vraiment horrible parce qu'un poisson à tête humaine, c'est quand même très dérangeant comme image.
Et en plus, il avait une voix étrange.
Surtout qu'il avait la tête de Candy un peu. Non, il avait je sais pas, une tête un peu fourbe, zarbi, comme ça. Candy adorait lui parler de Mitterrand ou l'insulter, etc. Enfin, voilà, c'est un peu les souvenirs que j'ai de Seaman.
On pouvait le martyriser, on pouvait jouer physiquement avec lui, avec une espèce de petite main.
Ouais, et puis il fallait aussi
lui apprendre des mots.
Ouais, il fallait aussi s'occuper de son aquarium. Il pouvait y avoir des champignons au bout d'un moment
Seaman, il évoluait beaucoup effectivement quand on lui parlait. Et ce qui était très marrant, c'est qu'il avait toujours un bon mot à la fin, avec une morale à deux balles, et qui avec des répliques qui sont cultes. Il y a un bouquin qui est sorti avec toutes les meilleures répliques de Seaman. Donc, et moi, je me souviendrai. Hein, c'est une anecdote personnelle pour le coup. Mais en 99, je crois que c'est cette année où il est sorti. J'étais au Japon, donc je fréquentais différentes boutiques. Quand le jeu est sorti, le gars, le vendeur avec qui je m'entendais bien, me dit "T'as une Dreamcast ?" Je fais "Non." Et il me dit, c'est dommage parce que j'ai un jeu avec qui, si t'as pas d'amis, et un jeu vidéo avec lequel tu pourras apprendre le japonais, quoi. Tu pourrais progresser en japonais. Ouais. Je fais, c'est quoi? Il me fait, c'est Seaman. Ah, bon, d'accord. Donc, j'ai pas, j'ai appris Seaman, j'ai découvert Seaman à ce moment-là. Mais effectivement, pour la communication en japonais, c'était plutôt sympa. On lui parlait, quand il comprenait pas, il te le faisait comprendre. Mmh.
Puis il avait trop barré, il était très sec.
Ouais, exactement.
Il était snobé un peu. Ça.
Ouais, ouais. Il était voilà, c'était un comble pour un poisson. Un peu chelou quand même. Hein.
Du coup, Florent, donc, lorsqu'il va au Japon, dès qu'il parle à quelqu'un, genre par exemple, il va chercher un McDo, il lui balance des petites piques à la fin, voilà. Seaman style.
Seaman style.
Non, bien merci. C'est et alors. Mm-hmm. Il est bon ton burger.
Donc voilà, Seaman, c'était c'est un personnage qui a vachement marqué les gens.
Un ovni.
Et ouais, c'était vraiment un ovni.
Il y a une suite.
Il y a une suite, ouais.
Il y a eu Seaman Christmas, je sais pas quoi, et Seaman 2. Et même, il y a eu deux, il y a eu trois jeux.
C'était sur PS2 le Seaman 2.
Le Seaman 2 c'était sur PS2, ouais.
C'est ça. Mais c'est vrai que c'est.
Un jeu bien barré quand même.
Ah, il faut aller sur YouTube, Dailymotion, etc., voir des vidéos de Seaman si vous connaissez absolument pas ce titre, ce personnage. Parce
et vous
que...
allez flipper.
Ah mais... ouais, ouais. Puis c'est très lent. C'est...
Mais
c'est
ça, il avait surtout marqué son époque parce que la reconnaissance vocale était excellente. Et qu'il y avait vraiment des échanges possibles, quoi. C'était une. Les,
mais pas tout
les
de suite.
Ébauches.
Il fallait
non,
quand même
fallait
jouer pas mal d'heures. Hein.
Ouais, il fallait lui apprendre quand même pas mal de choses, débloquer pas mal de mots. Mais au bout d'un moment, il y avait quand même de bons échanges qui pouvaient être faits. Donc c'était assez bluffant déjà pour l'époque de voir une interactivité homme-machine comme ça. Mm-hmm. Enfin, homme-poisson, on va dire.
Allez, on passe en 99 sur PS1 avec un jeu qui personnellement reste parmi mes incontournables absolus. J'ai pas énormément de t-shirts de jeux vidéo, mais j'ai toujours le t-shirt d'Incredible Crisis.
Ah ouais.
Et parfois je dors avec la nuit. Voilà, les anecdotes totalement personnelles, débiles et inintéressantes. Néanmoins, Incredible Crisis, c'est totalement délirant. C'est une sorte de bishibashi finalement. Succession
ouais,
de mini-jeux.
Voilà.
Mais scénarisé.
Bah, c'est scénarisé. T'as une histoire de bout
avec
en bout.
Avec un salaryman.
Et c'est voilà, c'est la Julo. Folle journée d'un salaryman à qui il arrive toutes les galères du monde, quoi.
La poisse ultime. Quoi.
Voilà, et puis chaque situation est prétexte à un mini-jeu, donc je sais plus ce qui se passe exactement au début, mais il se retrouve dans une
au
ambulance.
Début, c'est pas au début où il se casse la gueule et il doit rebondir sur le mât du drapeau.
Voilà,
ou...
c'est ça.
Ouais,
il se fait très mal, et après il est dans une ambulance.
Il y a la boule de l'immeuble qui tombe, qui l'écrase, donc il rentre dans l'ambulance. L'ambulance, les portes s'ouvrent, il est dans une.
Et tu dois
une
résister
méga
à.
Pente, ça descend,
il est dans la porte de son petit chariot d'ambulance là, et tu dois éviter la circulation.
Il s'écrase contre des murs, après, bon, enfin ça n'arrête pas.
Il y a une scène où il y a un truc qui te poursuit, c'est la boule, et tu dois appeler l'ascenseur, et donc le but c'est d'appuyer le plus vite possible sur le bouton, parce que tout le monde sait qu'en appuyant vite sur un bouton d'ascenseur il arrive plus vite. Donc en tout cas dans Incredible Crisis c'est le cas, et la journée
et
du...
dans les Die Hard aussi tu noteras les mecs à chaque fois ils sont là quand il y a les terroristes qui arrivent et ça marche.
Tout à fait, c'est comme quand on tape sur le capot de la bagnole, enfin sur le volant de la bagnole quand elle arrive pas à démarrer. Dans les
ça
films
démarre.
Américains, ça finit toujours par démarrer. Bref, en tout cas, et voilà, c'est toute la journée un peu starbait de ce mec-là qui est très très drôle en fait. Voilà, les situations sont drôles et tu prends plaisir à évoluer dans le jeu, mais c'est qu'une succession de mini-games en fait.
Et ça fait partie des rares titres complètement barrés. Vraiment typiquement japonais, qui était sorti en France.
Qui est sorti chez nous, ouais.
Très peu d'unités, hein, mais ils avaient pris le risque de le sortir.
Ouais.
Et franchement, sur PS1, c'était. En plus, il était pas cher pour l'époque.
Ouais, il était à moitié prix, je crois.
Ouais, ouais. Et c'était vachement chouette. C'était vraiment un très très bon jeu.
Un très
c'était
très bon jeu.
Très rigolo, surtout. Ouais.
Alors, ça a été une période fertile, hein, les années. Fin des années 90, hein, puisque vous le voyez, là, depuis Bishibashi, on est toujours 98-99. On reste en 99, toujours sur PS1. C'était l'arrivée aussi, rappelons-nous, des sticks analogiques. Et alors, ce jeu-là, l'utilisation. Particulièrement bien, c'est une simulation de restaurant japonais.
Ah, c'était génial.
Ore no Ryori. C'est bien dit ou pas?
Oui, très bien.
Oh, pas mal. Très bien. Ça s'améliore au fur et à mesure du podcast.
C'est moi qui en parle.
Oh,
donc,
je sais pas.
Donc ce jeu était extraordinaire parce que c'est vrai que c'était le début des simulations de bidule. Et puis c'était toujours des
simulations de n'importe quoi.
Des simulations de n'importe quoi. Donc la simulation, t'as un patron de restaurant. Et donc il y a les clients qui arrivent. Tu dois prendre les commandes. Les commandes donc, s'affichent sur un côté de l'écran. Tu les choisis. Donc parfois c'est une bière pression. Donc tu dois faire le geste de remplir la bière pression. Évidemment, tu dois doser le stick analogique pour avoir la mousse mais pas la faire déborder. Tu dois couper des oignons. Donc tu coupes tes oignons. Tu prépares ton plat, machin, etc. Quand il y a un mec trop bourré ou alors qui se part sans payer, je sais plus, tu dois appeler les flics.
Quand il part sans payer,
ouais, faut composer le numéro de téléphone des flics sur le truc. En même
faut
temps,
faire la plonge,
en même temps, il y a tes plats qui cuisent et ça va de plus en plus vite comme ça. Et tu dois gérer, tu vois, le coup de feu d'un restaurant japonais.
Il fallait couper les carottes et donc,
avec le sting, maman pour ça, les mecs. Hein.
Mais
c'était beaucoup plus marrant dans ce jeu-là.
C'était beaucoup plus speed, vraiment dans le concept mini-jeu.
Et là, tu gérais le resto, tu faisais pas juste une recette et c'est fini. C'est pour ça que j'accroche pas trop à Cooking Mama, contrairement à Trace qui est un fan absolu.
Même s'il préfère Gardening Mama.
Oui, c'est vrai, il paraît. Ouais. Et dans tous les cas, on se marrait bien et c'est vrai que tous les jeux utilisaient les sticks. Mm. Voilà, c'était les premiers DualShock. Quoi,
c'était un chouette jeu. Mais était-il plus chouette que sur Saturn, toujours la même année, 99, que Pepsi Man. Alors Pepsi Man, on ne le connaît pas hein, chez nous en France, ou rares sont ceux qui le connaissent. C'est l'emblème japonais de la marque Pepsi. Et c'est quoi, un super-héros habillé
il est d'inspiration
de bleu
Il est tout métallique, non un peu, avec,
il n'est pas d'inspiration Ultraman, justement.
Ouais, en musclé, ouais. Genre super-héros américain.
Un peu Terminator, un peu un T-1000. Tout en bleu comme ça, il court, ou je sais pas, une sorte de Spider-Man.
Enfin,
un peu.
C'est un super-héros ouais.
De publicité,
ouais.
Quoi.
Voilà. De pub, ouais. Ouais.
Et bah, il était assez populaire en tout cas. Il était apparu déjà dans Fighting Vipers 2, ouais. Si je dis pas de conneries. C'était un personnage jouable.
Jeu de baston.
Et effectivement, dans le jeu Pepsi Man qui t'a marqué, Julien.
Bah oui.
Mais je sais pas pourquoi.
Bah tout simplement parce que.
Il fallait courir dans des niveaux. La caméra était dos à Pepsi Man, je crois. Il fallait éviter la circulation ou je sais plus.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça avançait. Il fallait courir, esquiver plein de trucs. C'était une sorte de Paperboy finalement. Bon, là t'avais pas à distribuer du courrier, mais je me demande.
Genre de Frogger en fait.
Tu faisais pas jeter
des canettes
de
Pepsi ou je sais pas quoi. Mais Douille, donc un gameplay extraordinairement limité, c'est un peu juste pour la blague, mais
avec un héros à deux balles,
c'est ça. Mais il y a quand même des gens qui donc ont acheté le jeu Pepsi Man. C'est comme si, je sais pas, remarquez aux États-Unis, ils ont bien sorti les jeux Burger King, hein.
Oui,
et il y avait même un jeu McDonald's sur Super NES,
ouais, avec Ronald de McDonald's.
Il y a les trucs Pepsi ou 7-Up,
7-Up, ouais. Ouais.
Ouais, Fido Dido, ouais.
Mais c'est vrai que celui-là était particulièrement débile et qu'effectivement on l'a retrouvé dans d'autres jeux sur Saturn, Fighting Viper en l'occurrence. Allez, on passe en 2000 sur la Dreamcast avec un jeu qui s'appelle Room Mania 203.
Je l'avais testé dans Joy, je m'en souviens, et j'avais eu beaucoup de mal parce qu'en fait le concept est vraiment très particulier. En gros, tu incarnes un peu Dieu. Enfin, en tout cas, t'es une espèce de conscience qui va rester dans cette. Ça s'appelle Room Mania 203. Donc, t'es la chambre de 203. Tu restes là et tu observes la personne qui vit là.
C'est un étudiant
qui est là sur ses tatami, à son ordinateur, son lit, machin, etc. Et tu vas devoir essayer de faire évoluer son destin en, je sais pas, en ouvrant la fenêtre ou en faisant tomber un truc, machin, etc. Alors je me rappelle
plus réagir.
Exactement, mais j'avais trouvé ça mais complètement barré. En même temps, j'avais super scotché parce que j'essayais vraiment de faire avancer le truc et essayer de comprendre en fait. Où est-ce que ça pouvait nous faire aller, quoi? Parce que je comprenais pas le jeu. Du jeu, voilà.
C'est ça.
Et donc j'ai continué, j'ai persisté, etc. Bon, jusqu'à un certain point, je dois l'avouer, parce que voilà, c'était pas hyper génial, hyper passionnant, mais en tout cas, c'était mais complètement barré dans le concept même. Et je me rappelle tout le monde qui passait derrière moi qui me disait mais tu fais quoi là? Ouais. Bah, je sais pas, là, tu vois, là,
j'ouvre une porte.
J'essaie de faire une interaction avec quelque chose et que peut-être. Quelque chose va se passer, je sais pas.
En fait, je crois qu'au Japon, ils ont essayé de titiller un petit peu le côté voyeuriste gamers. Parce que je me souviens, moi aussi, de la pub au Japon à ce moment-là. On voyait donc le personnage qui faisait rentrer une fille. Et donc, on les voyait s'installer sur le lit, puis ça s'arrêtait là. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de maintenant? Et puis là, tu voyais le logo Dreamcast, Room Mania 203.
Dreamcast.
Donc, ça jouait vachement sur le côté voyeuriste, quoi, on va dire, du jeu. Alors qu'il se passait,
un peu télé-réalité aussi.
C'est pas grand-chose, à mon avis. J'ai pas fait ce jeu-là, mais.
Ah, moi, j'ai fait en tout cas pendant quelques heures. Quoi.
Ouais. Voilà.
Room Mania 203, un jeu tout aussi barré que le suivant, qui a entraîné une génération entière de pigistes de l'extrême. Grâce à ce titre, vous pouviez avoir des doigts de fée et taper vos textes encore plus vite que précédemment. C'était sur Dreamcast, toujours en 2000. Et c'était la réadaptation d'un jeu qui n'a rien de très débile, hein, House of the Dead, un shoot sur les zombies. Et là, c'est Typing of the Dead, où justement, on jouait à House of the Dead, mais avec un clavier. Et donc, pour tuer les zombies qui arrivaient,
il fallait taper des mots. Voilà, c'est-à-dire que c'était vraiment le même jeu, c'était House of the Dead 2, je crois d'ailleurs,
ouais,
qui était d'ailleurs sorti sur Dreamcast, l'un des premiers jeux. Et effectivement, dès qu'un zombie apparaissait, il y avait un petit mot qui apparaissait au-dessus de lui et il fallait le retaper vite fait sur son clavier. Et à ce moment-là, pam 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 pam, ça shootait le zombie en question.
Et
donc
bien,
un concept surdébile vraiment. Ouais. Mais ça a cartonné. Ça a cartonné. C'était même en arcade, si je dis pas de bêtises, Florent. Il y avait une bande d'arcade Typing of the Dead et le jeu Dreamcast. Et je crois même qu'il est sorti sur d'autres consoles.
Sur PC, je crois.
Ouais, peut-être sur PC.
Plus tard.
Et, mais ça avait vraiment marché. Et voilà, c'était un concept sur débile.
Et bien sûr, contre les boss, c'était plus des mots, mais c'était carrément des phrases extraordinairement longues. Il fallait faire espace et tout. Dès qu'on se trompait d'une lettre, on se prenait des coups. Enfin,
ouais. Ça a peut-être permis à la dactylo de se démocratiser un peu dans ces années-là. Quoi.
Ouais.
Ah bah, en tout cas,
après, à taper plus vite.
J'en connais que si ça avait été adapté en occidental, qui auraient été plus motivés pour apprendre à mettre leurs 5 doigts sur le, plutôt que taper avec 2 doigts. Ça, à mon avis, ça peut clairement motiver à faire des progrès. En 2001, sur PlayStation 2, alors un jeu que là, je ne connais pas du tout, je dois l'avouer, c'est Super Galdelic Hour.
Ah, c'est pour toi, ça.
Tiger Supply qui se marre déjà, voilà, il a trouvé sa petite pépite.
Moi. Oui, c'est pour
Qu'est-ce
moi.
Que c'est, Super Galdelic Hour?
Super Galdelic Hour, comment exprimer les choses? C'est des jeunes filles déguisées en animaux, donc plutôt kawaii, des petits lapins, des petits chats, c'est très coloré. Et en fait, c'est un jeu de combat, donc qui se limite à, si je me rappelle bien, 5 ou 6 personnages, donc c'est vraiment pas très 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 bien au niveau... niveau vidéoludique, disons, voilà, c'est plus et c'est que des combats donc avec ces petits personnages hyper kawaii, des combats de tarte à la crème où les nanas vont donc se retrouver par terre après le choc avec plein de crème sur leur petit visage et sur leurs petites oreilles de lapin fluo.
Tu le dis tellement bien.
Oui.
Ça me donne presque
envie de voir. C'est flippant.
Donc voilà, c'est ça, ouais, avec des musiques complètement loufoques, tout est surfluo. Donc c'est le genre de titre, je crois, qu'on peut ranger au panthéon du jeu vidéo, quoi. Entre Shenmue et Metal Gear, je pense c'est que c'est le genre de jeu qui a sa place.
Et puis en termes de budget, c'est assez similaire.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui.
Ça a dû coûter très très cher à faire. Super Galdelic Hour. Bon, très bien. En 2001, toujours sur PS2, un autre jeu complètement étrange, assez mystérieux, mais qui nous avait fait bien marrer à la rédaction, c'était Mister Mosquito.
Ah. Ah oui, c'était moi qui m'étais carré aussi.
Le fameux jeu où tu joues un moustique.
Voilà, tu joues un moustique, t'es dans une maison, dans une famille japonaise, et tu dois simplement te balader, voler comme ça, essayer de pas te faire repérer, surtout pas de te faire écraser par une main humaine. Et tu dois. C'est toi qui faisais ce bruit ?
Oui.
Ah putain, pas mal. Et donc tu joues un moustique et évidemment qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller piquer chaque membre de la famille, voilà, trouver des ruses pour pas te faire voir et aller piquer. Voilà,
il y avait des zones d'impact qui étaient notifiées sur les corps, qui étaient donc gigantesques.
Hein. Il fallait déjà te poser sur le bras, l'épaule, etc. Et il fallait ensuite
piquer mais doucement avec le tic analogique, voilà. Tourner doucement pour pas éveiller. L'humain en question, la proie.
C'était pas très joli, c'était pas super bien fait, c'était pas maniable du tout, si je me souviens bien. Mais voilà, dans le concept, c'était complètement rigolo. Mais il était pas sorti celui-là aussi,
si,
en dehors du Japon?
Un petit éditeur.
En fait, à l'époque, ça marchait tellement bien, le PlayStation, on sortait n'importe quoi.
Ouais. Au Japon, ça s'appelle K, le ouais. K-A, en gros, avec un kanji, mais chez nous, c'était effectivement un truc.
Mister Mosquito.
Mister Mosquito, ouais. Et plus tu piquais une zone, on va dire, proche. Enfin, accessiblement proche avec les mains, plus tu marquais des points. Si tu piquais le bout des pieds, c'était plus. Enfin voilà, c'était moins. T'avais moins de bonus, on va dire. Donc,
ça allait prendre des risques.
Dur.
Voilà, piquer le bout du nez, voilà, risqué, ça rapportait des points, quoi. Ouais. Piquer le bout du nez. Ouais. Voilà.
Ah ben tiens, on y arrive au jeu qu'on a évoqué en tout début de podcast, 2001 à la Dreamcast, Sega Gaga. Alors Sega Gaga, c'est.
C'est drôle et triste à la fois.
C'est un... Oh, c'est joliment dit. Vas-y, Julo.
En fait, dans Sega Gaga. Donc je dis c'est drôle et c'est triste à la fois parce que ça correspondait un peu à la réalité. Donc on sait très bien que Sega était en mauvaise posture à ce moment-là, peut-être pas au point de Sega Gaga, parce que le jeu commence genre en 2020, un truc comme ça. Et c'est la crise en fait chez Sega.
Sega n'a plus que 1%
n'a plus que 3% de part de marché. Ouais. Et donc c'est une catastrophe, la boîte va mourir, etc. Et donc les pontes de Sega décident de mettre à la direction de la boîte deux gamins. qui eux savent ce qui est tendance, qui eux aiment les jeux vidéo et qui eux vont savoir comment en fait redonner un coup de boost à la marque voilà, à la marque ultime du jeu vidéo qui est en train de décliner. Et du coup en fait tu vas te balader dans les bureaux de Sega.
Alors, c'est
etc.
un RPG.
Et c'est un RPG, un vrai RPG dans lequel il y a des combats typés RPG et des phases
d'aventure.
Contre les
personnages de Sanbalé Amigo ou d'autres stars de Sega.
Voilà, et en fait tu vas rencontrer dans les bureaux de Sega Yu Suzuki, tu vas rencontrer plein de développeurs comme ça. Et tu vas même rencontrer par exemple Alex Kidd qui, comme il est devenu complètement ragard, est devenu en fait secrétaire. Voilà, il décroche le téléphone, etc. Donc... alors évidemment c'est un jeu auquel j'ai pas joué parce qu'il faut vraiment bien parler japonais pour essayer de et surtout bien le lire et c'est pas vraiment mon cas, mais voilà, c'est un jeu que j'aurais adoré jouer et voilà, ne serait-ce que mais pour aller rencontrer Yu Suzuki et voir un peu comment on se moque de lui dans Sega Gaga, parce que si mes souvenirs sont bons,
il est pas très très mis en valeur.
Il est pas très très mis en valeur parce que on se rappelle très bien que Shenmue avait coûté très cher et que
si la boîte en était là, c'était reparti à cause
de non, mais enfin je veux dire c'est un raccourci, mais voilà, ça fait partie des gens qu'on fait dépenser beaucoup d'argent pour des jeux qui n'ont pas marché.
Bah, justement, Florent, il y a une anecdote à ce sujet-là, hein, sur
le créateur de Sega Gaga, en fait.
Bah non, enfin, même sur la promotion, hein, il y a une citation dans un des Pix & Love, c'est le Pix & Love numéro 11, hein, précédent.
On a fait un petit dossier avec une interview du créateur de Sega Gaga, d'ailleurs, donc je vous rappelle. Mm-hmm. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire,
Julien ? Eh ben justement, il disait qu'il n'avait que 30 000 yens, ce qui représente 223 €, pour la promotion du titre.
Ouais.
Quand même, 223 € aujourd'hui, on fait pas grand-chose. Hein.
Il fait toute une campagne sur le Minitel. Hein.
Et
il explique d'ailleurs dans l'interview qu'avec ses 223 €, il a dépensé à peu près la moitié en achetant un masque de catch.
Ouais.
Et ici, il est parti à Akihabara pour faire la promo en montant sur les tables pour vendre son jeu. Quoi. Enfin, en gros, ce genre de gugus. Un gars tout à fait barré qui a fait donc un jeu extrêmement parodique. Et le but du jeu, en fait, il a convaincu les dirigeants de Sega en disant « Écoutez, moi, mon jeu, il coûtera 100 fois moins cher que Shenmue, mais j'en vendrai 100 fois plus. » Voilà, c'est comme ça qu'il a vendu son projet.
J'ai pas regardé les ventes, tiens, mais non, ça doit bah, pas ça être pas... 100 fois plus que Shenmue.
Disons qu'il est collector, ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui le recherchent. Mmh. Parce qu'il avait une boîte, ils offraient plein de goodies avec. Il y avait
une énorme boîte, je me souviens, c'est Gaga. Ouais. Ouais, on avait reçu celle-là, la rédac.
Et puis, ça reste un bon RPG. Hein. C'est vrai que l'utilisateur...
C'est incroyable comme projet, quoi. Enfin, des projets comme ça qui voient le jour et qui ouvrent les bureaux d'une société. Qui s'auto-parodie.
Mais Sega était vachement là-dedans à l'époque.
On apprend beaucoup de choses dans le Pix & Love, justement, et on voit que Yuji Naka était absolument pas chaud pour l'utilisation de Sonic. Il voulait pas du tout qu'on en fasse qu'on le tourne en dérision ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'apparemment il n'apparaît qu'à la toute fin du jeu, et alors de manière très très positive. C'est pareil, il voulait inclure des thèmes chers de l'histoire de Sega, la Ferrari qui symbolise un petit peu la M2,
et puis à Outrun,
Segata Sanshiro justement, et tout ça, il a pas pu le faire. Enfin bon, plein d'anecdotes sur ce jeu qui finalement est quand même incroyable, parce qu'il y a du RPG, il y a du shoot,
un des thèmes abordés aussi, c'était la bataille entre la 2D et la 3D, si je me souviens bien. Il y avait des dans le jeu, en fait, il y avait des sprites qui étaient en 2D, puis il y avait d'autres trucs qui étaient en 3D. Il y avait une espèce d'opposition entre les deux.
Il y a plein de parodies d'autres jeux aussi. Par exemple, vous trouvez des jeux à l'intérieur qui sont des parodies, genre de Final Fantasy 8, avec vraiment quasiment le logo de Final Fantasy 8, Otalu Gear Solid. Vous avez vraiment plein de titres comme ça qui ont été parodiés. C'est vraiment un grand melting pot. C'est l'un des rares jeux qui a tourné vraiment totalement en dérision le marché du jeu vidéo, et au-delà même de Sega.
Ouais.
Donc c'est quelque part, c'était assez libérateur, et c'est vrai que c'est quelque part un peu frustrant de se dire qu'il n'est malheureusement qu'en japonais, et donc accessible qu'à ceux qui parlent cette bien belle langue.
En tout cas, ils se sont bien lâchés.
Ah ouais, très clairement.
Un petit projet de fat subbing, là, ça serait pas mal quand même.
Alors on va passer très rapidement en 2003 sur un jeu Xbox, parce que finalement vous le connaissez probablement tous, mais c'est vrai que lui aussi, quand on parle du Japon pète les plombs, il est, on va dire, symptomatique d'une certaine frange de jeu un peu plus sexy, on va dire. C'est le Dead or Alive Extreme Volleyball qui a déchaîné beaucoup de passion, parce que ludiquement parlant, il n'est pas foliche. Mais par contre, c'est ostensiblement flatter les otaku qui ont envie de, je sais pas, voir de charmantes naïades sur leur écran et de pouvoir zoomer, les prendre
des photos,
voir les miracles de la 3D et de l'animation, des parties physique, du corps, la physique des seins et tout ça.
Qui n'était pas très réaliste.
Non, mais qui était très en accord avec ce qu'attendaient les otaku. Voilà.
C'est ça.
C'est vraiment un jeu pour otaku. D'ailleurs, c'est le jeu qui a été le plus vendu de la Xbox pendant pas mal de temps.
Au Japon,
mais c'est une console d'otaku, en fait, la Xbox.
Là-bas,
la première. Au Japon, ouais.
Est-ce que c'est vrai, Florent, que pour la première Xbox au Japon, on l'appelait la table basse ?
J'en ai aucune idée, non, ça je sais pas. Mais c'est fort possible. Hein.
Tellement ils s'en moquaient, tellement elle était grosse, gigantesque, et que.
C'est fort possible.
Pas,
mais ils ont eu d'autres façons, mais même pour eux, hein, parce que vous savez que la première Master System, la SG-1000, ils l'appelaient la pierre tombale. Et si vous regardez les photos, si vous regardez les photos, basse, c'est vrai que ça ressemble à une pierre tombale à la japonaise. Vous allez dans un cimetière japonais, ça ressemble à la SG-1000, quoi. Enfin voilà, ils étaient pas tendres avec leur propre console, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient appelé la table basse une Xbox, quoi. M'étonnerait pas.
C'est tellement énorme.
On peut manger dessus. Allez, 2003 toujours, l'arrivée de WarioWare. Alors WarioWare, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure avec Bishibashi. C'est un jeu quand même, de la part de Nintendo, complètement surréaliste, hein, cette succession de mini-jeux. Mais là, on n'a même pas le temps d'en finir un presque, qu'on est déjà passé à un autre.
Bah, c'est
ça
le concept,
extrêmement vite,
les micro-jeux.
Les micro-jeux.
Oui. C'est le concept, c'est 3-4 secondes par épreuve. Et puis tu les enchaînes, c'est que des trucs de rapidité, c'est pour ça que ça ressemble vachement à Bishibashi aussi, mais il y en a beaucoup plus.
Et puis un style visuel délirant, mais surtout qui n'a... Enfin, qui est... qui n'a pas de continuité dans le jeu. C'est, on passe de crayonné à du cel shading, à de la 3D, à de la vidéo, à du réaliste. Enfin, c'est waouh.
Ouais, mais, je prends la parole. J'ai juste, on a la chance nous à Pixel Love d'avoir. d'avoir un ami qui est monsieur Takeuchi Ko, qui est justement designer de cette série. C'est lui qui s'occupait en tout cas des graphismes. Il a même fait la couverture de notre numéro 5. On l'avait invité à le Japan Expo. Donc en discutant de ce jeu-là, il m'avait expliqué qu'il devait trouver tellement de jeux que l'unité graphique, en fait, ils s'en fichaient un petit peu. Quand ils avaient une idée de concept, il y avait un gars qui griffonnait sur un bout de papier. Et puis finalement, le papier, il était plutôt bien foutu. Donc il faisait un scan et il l'utilisait comme tel quel.
Il y en a par exemple où on doit carrément mettre le doigt dans le nez.
Ou arracher un poil de nez.
Arracher un poil de nez,
C'est totalement barré. Mais en tout cas, graphiquement parlant, ils ne sont pas forcément pris la tête. Ils ont vraiment mis tout. Ils ne sont pas pris la tête. C'est le cas de dire.
Et alors, justement, elle est partie d'où cette idée de faire un jeu comme ça de la part de Nintendo? Parce que c'est pas du tout consensuel, c'est pas dans les canons du genre de la firme de Kyoto quand même.
Je sais pas vraiment quoi. Je sais pas pourquoi, d'où est partie l'idée. Faudrait peut-être
différencier, mettre encore renforcer le caractère un petit peu de Wario qui est beaucoup moins lisse que son frère obscur. Enfin,
mais finalement Wario a pas énormément de rapport avec la plupart des mini-jeux qu'il y a dedans finalement en fait. C'était peut-être plus pour
c'est le héros, quoi.
Ah,
puis c'est surtout que c'est des WarioWare, c'est aussi des manières de jouer assez innovantes, parce qu'il y a eu le WarioWare Twist, où on devait tourner la console pour jouer au mini-jeu. L'utilisation tactile de la DS, elle était mais optimale avec les WarioWare, ça marchait tout de suite avec le stylet, et pour tester la console, c'était absolument génial.
C'est vrai qu'ils se sont lâchés esthétiquement et ludiquement parlant.
Ce que j'adore dans WarioWare, c'est les premières parties en fait. C'est la première fois que tu joues. Parce que tu dois. Donc les mini-jeux durent quelques secondes à peine. Et dans ces quelques secondes, tu dois d'abord essayer de comprendre ce que tu dois faire. Et ensuite l'exécuter le plus vite possible. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus drôle, je trouve, c'est de commencer un nouveau WarioWare. Et c'était pareil avec le Twist, avec celui de la DS, etc.
Au début, tu comprends pas toujours d'ailleurs ce qu'il faut que tu
fasses. Mais c'est ça qui est rigolo.
Il y a le Do It Yourself qui vient juste de sortir d'ailleurs sur DS. Donc là, pour le coup, si vous voulez faire des trucs barrés, c'est à vous de l'imaginer quoi.
Et on va voir, il y aura probablement des petites pépites qui vont.
Ah bah ça, faut filer ça à Candy, on est tranquille. Il va te faire un truc de ouf.
Clairement. Autre jeu complètement barré d'un créateur, lui aussi, vraiment en marge de, on va dire, de la classification générale des développeurs de jeux vidéo. Aujourd'hui, il est en train de créer des parcs pour enfants. Il s'agit du jeu Katamari Damacy. Qui a vraiment marqué quand même les joueurs par son originalité.
Ah putain, c'était génial.
Julo.
Ouais, moi j'ai adoré. Je trouve qu'ils ont un peu trop exploité le filon.
Ils en ont fait
beaucoup. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on rejoue toujours au même truc. Il y a le dernier, c'est Katamari Tribute, je crois, sur PS3, qui regroupe en fait tous les épisodes d'avant avec quelques nouveautés un peu bidons. Mais le concept de base est lui aussi encore une fois un concept tout simple, complètement débile, mais génial et complètement addictif. C'est donc une boule, une petite boule, un katamari que tu vas faire rouler sur des objets et il va englober tous ces objets au fur et à mesure et ça va faire grossir la boule, grossir et de niveau en niveau comme ça tu vas absorber des choses de plus en plus grosses et ça va se finir où tu vas absorber des continents tout entiers, des tours King Kong, machin, etc. Et puis jusqu'à l'univers tout entier. Donc c'est complètement barré, ça va
de prince de l'espace qui attend.
Voilà, alors ce qui est très rigolo aussi c'est le design qui est très 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 simple et en même temps très original aussi dans les formes et tout ça. Donc t'as le petit prince du cosmos et puis son père le roi du cosmos qui est gigantesque et il va y avoir à chaque fois un objectif en gros à la mission qui est complètement bidon parce que c'est toujours un peu la même chose que tu fais, mais dans les dialogues en fait c'est juste super drôle, ça n'a ni queue ni tête tout est toujours bien trouvé et tout est toujours rigolo en fait. Et puis c'est hypnotique en fait quand tu joues, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu commences à rouler sur des objets, tu comprends le concept, etc. Et puis tu te prends au jeu. Et tu peux pas t'arrêter.
Plus ta boule est grosse, plus elle a amalgamé d'éléments, plus il est difficile de passer. Ah ouais. Donc finalement,
en fait, tu passes des niveaux au fur et à mesure. C'est-à-dire, tu peux absorber des objets de telle taille à telle taille, jusqu'à procéder à la transformation en boule un peu plus grosse. Et là, tu peux sortir de cette première zone du niveau pour aller vers une autre, etc. Donc au début, tu peux commencer dans une petite pièce à absorber des punaises, puis arriver à un certain niveau, tu vas absorber les murs de la pièce, puis sortir de la maison et te retrouver dans le jardin. Commencer à absorber les arbres, etc.
Et puis il y a les musiques.
Et les musiques sont génialissimes.
Les musiques, elles sont incroyables.
Je passe le micro à Tiger.
Ouais.
Je pensais justement aux musiques qui sont essentielles dans l'ambiance. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un niveau, à un moment, on commence dans un zoo et quasiment toutes les mélodies sont faites avec des sons d'animaux. Mmh. Donc toute la rythmique est faite soit avec un aboiement, un coin-coin de canard et l'ambiance.
Il y a des morceaux qui sont faits entièrement à la voix aussi. Il y a, c'est le principe de base de ces musiques en fait. Des musiques que à la voix avec que des bruits de bouche et tout ça.
Tout à fait.
Ouais, c'est vraiment clairement un grand jeu, puis on va en reparler très bientôt, puisqu'il y aura. Alors, c'est pas du tout sa suite, hein, mais c'est par le même créateur, Nobinobi Boy, qui est encore plus barré, hein, un petit peu différent. On en reparle dans 3 minutes. Juste avant, sur DS, en 2005, il y a Wendan.
Oh, Tatakae, Wendan, qu'est-ce que c'est ?
Mais c'est un jeu de rythme sur DS. Qui était complètement barré. On se retrouvait avec des personnages. Alors, je sais pas si vous corrigerez parce que vous connaissez bien le Japon, mais ils ont un look de Bosozoku un peu.
C'est ça, ouais. Au Japon, dans les lycées, les universités, il y a les systèmes de clubs, hein, comme on dit là-bas. Mmh. Et il y a toujours un club aux États-Unis, ce serait le cheerleader, mmh. cheerleading, enfin toutes ces pom-pom girls qui viennent encourager les équipes. Et ben là-bas, c'est la même chose, sauf que au lieu souvent d'être des jeunes filles, quoi qu'il y en ait bien sûr au Japon aussi, c'est souvent des mecs
qui ont de la voix.
Qui ont de la voix, qui viennent crier et qui ont toujours des looks de loubar justement pour impressionner l'équipe d'en face. C'est un petit peu le concept du All Black à la japonaise, quoi. Mais ils sont dans les tribunes, ils sont pas.
Torse nu avec des bandeaux sur le. Voilà.
Ou comme la petite gonzesse dans Olivier Tom.
Voilà, exactement.
Qui est avec son drapeau pour supporter.
C'est exactement ça. Donc dans Olivier Tom, c'est une nana. Mais voilà, c'est ça. Un Oendan, c'est le groupe de supporters. Voilà.
Alors il y a un truc à savoir, c'est que ce jeu, il est sorti en France, mais il a été complètement refait en fait pour le marché occidental. Mais quand je dis complètement refait, il a été vraiment complètement refait. Je sais pas si on a fait deux fiches sur Gameblog ou si on a mis. On a eu cette discussion un peu longtemps avec Tiger France.
Elite Beat Agents,
voilà.
C'est des Men in Black en fait.
Et donc voilà.
Remake, hein,
tout à fait. Ouais. Mais d'ailleurs, l'adaptation, le comment dire, le remake quoi. Ouais. Il est quand même très très fun, rigolo, etc. Mais c'est juste, ça n'a rien à voir avec le jeu original.
L'histoire de qui vont avec chaque musique n'ont rien à voir, c'est clair.
Il y a des morceaux qu'on connaît peut-être un peu plus aussi, parce que je sais que dans la version occidentale, il y avait du Queen, par exemple.
Je sais
qu'il y avait des groupes peut-être un peu plus connus que
alors que
ce qu'on trouve dans les versions japonaises.
Rien à voir au niveau des musiques. Ouais.
Et ben justement, on reste dans les jeux musicaux, les jeux de rythme avec Rhythm Tengoku.
Ah.
Qui va en parler ?
Moi j'adore. Hein.
Ouais, c'est super.
En fait, moi j'ai découvert. Donc le premier est sorti sur Game Boy Advance.
Mmh. Ouais.
Et c'était, je sais plus en quelle année,
2006.
Mais je sais que c'était 2006, tu dis ?
Ouais.
Non, sur GBA, non, il est sorti avant.
Bien, écoute, je ne sais pas.
Si, c'est que nous avons.
Bon, il est sorti en 2004, on va dire. Allez, tiens.
Oh, je crois que c'est en 2004. Enfin,
je crois dans les années 2000.
Bon, on s'en fout, d'accord, ok, j'ai compris. Et donc, c'est un jeu de rythme. Mais pour moi, c'est un des meilleurs jeux de rythme qui existe.
Et un des plus difficiles aussi, parce que c'est pas facile. Hein.
Alors en fait, c'est simple. Mais c'est basé aussi sur, en quelque sorte, des mini-jeux répétitifs. Donc tu vas faire une série de 5 mini-jeux de rythme dans lesquels tu vas devoir vraiment appuyer sur un bouton, voire deux maximum. Ça dépend des mini-jeux, mais souvent c'est sur un seul bouton, mais avec le bon timing. Et quand je dis bon timing, c'est un timing vraiment super précis que tu vas devoir choper. Donc tu vas faire ce premier mini-jeu, ce deuxième, ce troisième, ce quatrième et ce cinquième, si je dis pas de bêtises. Et là après, t'as ce qu'on appelle le mix. Et le mix, c'est une véritable chanson faite avec tous les rythmes qu'il y a eu dans ces 5 mini-jeux, qui sont des rythmes uniques à chaque fois, etc. En gros, voilà, t'apprends à jouer à chacun des mini-jeux. Et quand tu fais le mix à la fin, c'est juste une récompense ultime parce que déjà la musique déchire. Et en plus, visuellement, c'est un peu assez proche de WarioWare. Finalement, c'est des dessins très simples.
C'est le même, voilà.
Donc c'est le même type d'univers. Et c'est complètement barré, mais en même temps, super entraînant dans la musique. Et complètement délirant, évidemment. Et dans la version DS, qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle
Rhythm Paradise
Tengoku Gold. Ouais. Chez nous c'est Rhythm Paradise.
Rhythm Paradise en Europe.
Et t'as des mini-jeux en plus. Par exemple, t'as le mini-jeu avec, vous savez, on a tous nos cartes de visite dans une petite boîte, mais les cartes de visite sont toujours plus petites que la boîte. Et en gros, quand tu bouges la boîte, ça fait toper les cartes de visite contre le bord et ça fait un petit peu de bruit, tu vois. Alors t'apprends à faire ça et puis tu peux faire de la musique en faisant ça avec ta boîte à carte de visite. Donc c'est complètement débile et c'est que des trucs comme ça. T'as des mini-jeux où faut
tirer un poil de barbe, et puis ça fait un ch'ting en même temps.
Aïe. Jeter une pièce en l'air et la rattraper entre les deux doigts.
Voilà, t'as des trucs avec des militaires, t'as aussi des trucs avec des japonaises en kimono qui chantent des chansons traditionnelles, etc. Enfin, t'as des tas de trucs complètement débiles. Et il faut dire d'ailleurs que la version française du jeu DS est assez bien foutu, en
elle
fait.
A été traduite, même les chansons ont été traduites en
ouais.
français.
Ouais, les chansons sont en français, ça. C'est certain, c'est certain. Hey, voilà, ouais. Tout ce genre de trucs.
Alors, c'est pas hypnotique, c'est... Ah, c'est... Ça te reste dans la tête, ça mais te grave. Bouffe le cerveau, quand
ah,
même.
Ouais. Ah ouais, c'est génial.
C'est
bon, moi,
certain.
J'adore.
Clap, 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 clap.
Ouais. Ça donc, c'est vraiment un de mes jeux de rythme préférés, parce que c'est très simple et en même temps super technique, faut avoir vraiment le rythme. Et puis, c'est complètement délirant et j'adore ça, voilà.
Il a ultra cartonné au Japon, il a fait pas loin de 2 millions. En France, par contre, beaucoup moins, visiblement.
Il y a une grosse campagne de pub.
Avec Beyoncé.
Avec Beyoncé, mais il a pas eu le succès escompté, visiblement.
C'est très particulier, quand même.
C'est un très bon jeu.
Je l'ai fait essayer vraiment à des gens qui sont pas des ultra gamers ou gameuses et...
Ah, ils adorent, moi, je trouve. Moi, les gens autour de... moi, autour de moi, c'est le
mais
cas.
Mais ils trouvent ça difficile en général.
Oui, très difficile.
C'est
la
assez difficile.
Les avis de saouler, quoi.
Passer les 2-3 premiers mini-jeux, après, c'est. Ça
en fait,
devient
je trouve que l'épisode GBA est presque mieux, moi.
Ouais.
Parce
ouais.
que le. Justement, tu gâchais un peu la précision avec le coup du stylet. Ouais. T'as pas la même exactitude qu'avec la pression sur un bouton,
le
et c'est
bon
très
tempo.
Important. Ouais. Donc, je conseille la version GBA.
Tu conseilles la version voilà. GBA, mais est-ce que la DS va se révolter avec Doki Doki Majo Chinpan?
Ah oui, ouais. Bah alors là on est dans le vrai jeu d'otaku. Hein. Le but ultime de ce jeu en fait c'est de tripoter des petites nanettes hein, au look kawaii, de leur soulever la jupe. En gros, je vais vous parler clairement de mon expérience parce que quand j'ai appris l'existence
de... C'est amusant que ce soit toi qui
joues à ça. Ouais, non, mais
son expérience de soulevage de jupe.
Ah,
c'est
non,
ça, c'est parti.
Voilà, je porte un intérêt à tout ce qui a trait aux jeux vidéo.
On rappelle
donc,
que Twilight
Kids, voilà.
C'est toi qui en as parlé. Shoaniki, t'étais très
ça,
demandeur.
C'est très moche, Julien, de faire un oui, en gros, donc pour mon expérience, pour le peu que j'en ai joué, c'est tout.
Comment tu reviens en arrière?
Non, vraiment.
Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que t'as une fiche entière dessus.
Non, ça c'est,
c'est pour
chose.
Le plus. Excuse-moi.
C'est pour le plus, tu verras. en gros, donc c'est un RPG qui a l'air totalement inintéressant. Et c'est-à-dire que moi, qui parle pas un mot de japonais, à part, je connais 3 katakana, c'est tout. En appuyant sur A tout le long, pendant les 20 premières minutes, on arrive à peu près à s'en sortir. On a ensuite une épreuve au stylet pour envoyer des boules d'énergie que nous envoie une vilaine petite sorcière. Mmh. Donc on la punit en lui renvoyant ses boules. Et une fois qu'elle est punie, au bout d'une petite demi-heure, on peut enfin s'amuser avec elle. Donc on commence avec le visage où on peut lui toucher un peu les joues, elle rougit et plus on touche des zones érogènes, plus des petits cœurs apparaissent. Ah. Elle pousse des petits sons, des petits cris et puis on peut descendre ensuite sur la poitrine, ensuite soulever la jupe. Je crois que je vais m'arrêter là parce que en fait ça me fait beaucoup de choses.
C'est du quoi? C'est du rating quoi plus 18?
Non, bah, je sais pas en fait parce que c'est sorti qu'au Japon.
Ouais,
hein,
ouais.
Pas...
Doki Doki Majo Chinpan.
Mais ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est des graphismes très kawaii. Hein, c'est des petites filles sorcières, tout ça. Donc
ça veut dire quelque chose, voilà. Florent, ça? Doki Doki Majo Chinpan.
Doki Doki, c'est une onomatopée pour le battement du cœur quand t'es un petit peu t'as le trac ou et puis bah Majo c'est la sorcière et après Chinpan ça peut vouloir dire plein de trucs dont je sais pas quoi mais.
Faut voir les kanji, ouais.
Caresse la sorcière et fais-lui battre le cœur.
Mais c'est
boum,
exactement
la sorcière,
ça.
Tu caresses,
exactement
quoi.
Ça.
Enfin, je sais pas exactement, mais ouais.
Bon, la punition de sorcière. Voilà. Très bien. Voilà. Eh bien, Tiger, garde ta voix et ton micro, puisque tu vas nous parler maintenant d'une sorte de monument du jeu vidéo des derniers mois, avec moult anecdotes, effectivement. Suda51 en parle, Kojima aussi.
Ils en parlent ensemble, même.
Et effectivement, tu vas nous expliquer tout ça, puisqu'il s'agit d'un jeu qui s'appelle Love Plus, qui est sorti sur DS en 2009 et au Japon.
Et dont la suite arrive bientôt d'ailleurs.
Ouais,
Love Plus.
Ouais. C'est assez surréaliste.
Oui, mais sauf que là.
C'est le phénomène en fait qu'il y a autour.
Contrairement au Doki Doki où c'est un petit peu rigolo, là on est dans du sérieux. Hein, je veux dire, c'est des vraies relations qui s'établissent. C'est en fait donc Love Plus, c'est un dating sim, quoi. Donc un jeu de simulation de drague. Sauf que d'habitude, en général, dans ce genre de jeu, on doit répondre à des bonnes questions durant les entretiens qu'on a avec les différents protagonistes. Et pour leur plaire, en fait, on doit bien leur répondre et tout. Sauf que là, on bâtit une véritable relation en fait avec sa petite amie et on doit s'en occuper comme un Tamagotchi un peu quoi, pour qu'elle aille bien, pour la sortir, pour l'amuser, etc. Et donc on tient la DS
c'est donc ça les relations humaines
comme un livre, donc un peu à la Kawashima. Donc le jeu,
c'est moins sexy qu'Awashima quand même. Hein.
Enfin, c'est vrai, il est moins sexy. Enfin, ça dépend des goûts après. Mais il c'est.
Il est plus chiant aussi.
Et le jeu d'ailleurs, c'est pas mal vendu au Japon parce que je crois que c'est 150 000 exemplaires, ce qui est pas énorme en soi pour un jeu vidéo, mais pour un jeu de comme ça de
cible de niche, ouais.
Ça veut dire 150 000 personnes qui ont pas de vie.
Dont visiblement,
mais qui veulent en avoir une.
Dont visiblement beaucoup de gens chez Konami. Ouais. Parce que justement, Hideo Kojima disait, enfin, a été cité, il a parlé dans Famitsu. Il expliquait qu'en gros, le problème qu'il y avait en ce moment chez Konami, c'est que les types étaient à fond sur Love Plus. Que certains allaient carrément dans les toilettes pour pouvoir y jouer parce qu'ils avaient un peu honte quand même de montrer ça au bureau. Et il y a qu'un jeu n'avait jamais été aussi populaire en fait chez Konami, voilà. Et il y a cette anecdote qui est assez sympathique en fait entre Suda 51 et Kojima,
donc le père des Killer 7, No More Heroes.
En fait, donc Suda 51 qui se rendait au cinéma et qui voit un homme tout seul demander deux places de cinéma. Donc il a été un peu intrigué par ça, il a raconté ça à Kojima. Et en fait, il était bien tout seul, ce jeune homme. Il prenait quand même deux places parce que la deuxième place, c'était pour sa Nintendo DS avec sa petite amie de Love Plus à l'intérieur. Donc il lui fallait sa propre place de cinéma.
Ils vont loin, quand même. Ils vont loin. Ouais.
Et, après, le mec va au resto, il commande deux plats. Vous êtes seul ? Non, nous sommes deux.
Tu crois pas si bien dire parce que quand tu tapes Love Plus sur Google, tu tombes sur une série d'articles et il y a des fans, donc des gens qui ont leur petite amie dans leur console, quoi, qui se retrouvent au restaurant avec leur DS ouverte sur la table pour leur anniversaire.
Et tu peux discuter avec elle ?
Alors voilà, c'est ça.
Il y a une reconnaissance vocale.
Bah, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a une reconnaissance en fait. Tu peux communiquer en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a des petites interactions vraiment en fait assez rigolotes, quoi. Par exemple, il peut arriver dans le jeu qu'elle te demande, donc la petite amie en l'occurrence, qu'elle te demande à quel animal elle ressemble le plus. Et tu peux dire par le micro, donc tu peux lui dire qu'elle ressemble à un chat, donc à un écho en japonais. Mm-hmm. Et à ce moment-là, l'interaction qu'elle aura, c'est qu'elle fera un petit miaulement.
Oh, c'est mignon.
Donc tu peux établir des sortes de discussions.
C'est un jeu de fou qui a rendu fou d'ailleurs tous les psychologues au Japon parce que il y a eu les exemples que tu as donné, ça se compte par dizaines et
il y a eu des mariages.
Oui, tout à fait.
Des mariages avec des Nintendo DS. Et l'interaction est plutôt bonne, hein. Visiblement la nana elle peut te demander avant de se coucher donc parce que ça intègre l'horloge interne, donc quand elle est fatiguée, elle te le fait comprendre. Quand il est 22h30.
Parce qu'il faut pas rigoler.
Et donc elle te dit est-ce que tu m'aimes ? Puis quand tu lui réponds, tu la vois rougir, tu vois. Enfin, c'est ce genre de truc, quoi. C'est vraiment.
Elle te réveille à 4h du matin. Et tu m'aimes encore ? Oh ta gueule.
Et tu fermes ta DS.
Est-ce qu'elle peut te quitter ? Ouais.
Bah, moi j'étais justement.
Des vagues de suicide là.
Et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien dans la cartouche. Faut que tu en rachètes une autre. Oh putain, je viens de trouver un concept.
Mais excuse-moi, l'arrivée de la 3DS, à mon avis, pour ces joueurs-là, c'est un Eldorado. Les mecs, ils vont trop kiffer de pouvoir jouer à Love Plus sur la 3DS parce que la nana, elle va être en 3D. Alors là,
Est-ce qu'après, il y aura un périphérique en plus de la caméra et tout prévu pour peut-être une plus grande interaction ? Parce que il manque.
Alors vous ne voyez pas le regard de Tavien Suplex.
Il manque quand même quelque chose.
Et il y a Raon qui mime des trucs aussi avec son doigt là.
Le Vitality Sensor. Sort, bien sûr, c'est ça qu'on
y pensait tous.
Oui, voilà.
Pas autre chose, bien sûr.
Non, pas.
Il y a plus de port cartouche pour.
Il y a plus de port.
Un port quelconque. Quoi.
C'est ça, voilà. Bon, il y en a 150 000 en tout cas. Très bien, c'est effectivement un jeu qui risque de ne jamais sortir en France, hein, qui est bien symptomatique de ce Japon qui pète les plombs parfois. Mais en tout cas, ça marche bien là-bas. Et on va finir très rapidement avec trois titres. On en parlait tout à l'heure, Nobby Nobby Boy, qui est sorti exclusivement sur le PSN en 2009.
Encore un concept un peu fou de Keita Takahashi. Donc en gros le principe c'est que t'as un petit donc Nobby Nobby Boy, c'est
ver de terre coloré,
un petit animal une tête toute ronde, un cul tout rond et puis entre les deux
un corps tuyau
que tu peux agrandir à volonté. Et pour ça en fait t'es dans un niveau et tu vas pouvoir faire tourner son corps par exemple autour d'un piquet puis d'un autre piquet de l'autre côté, etc. Et puis marcher comme ça et essayer de l'étendre de plus en plus. Et en fait, tout est décompté. Chaque personne qui joue à Nobby Nobby Boy accumule en gros des centimètres.
qui vont être ramenés à un serveur Nobby Nobby Boy, qui fait que en fait le gros Nobby Nobby Boy va pouvoir se rapprocher de la Lune. Mais ils ont déjà atteint la Lune.
Ah ouais, parce qu'en fait,
et là, ils sont en train de se rediriger vers Mars.
Ils sont en train de la précision.
Et l'idée, c'est de retrouver la Nobby Nobby Girl, en fait.
C'est exactement. Ça. Et en fait, ouais, l'histoire de base, ouais, le petit Nobby Nobby Boy qui doit retrouver donc sa petite copine sur la Lune. Et il y a quelques mois, je crois, ils avaient comptabilisé le temps de jeu total de tous les joueurs de Nobby Nobby Boy.
J'en fais partie.
Et voilà. Et bien, toi et tes amis joueurs avaient atteint Jupiter, en fait, la distance réelle.
Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas joué parce que j'étais beau, quoi. Voilà.
Dans Nobby Nobby Boy. Voilà.
J'ai c'est arrêté beau. Avant la Lune, tu vois.
C'est beau, mais en tout cas.
Sorti sur iPhone d'ailleurs aussi.
Oui.
Et ça comptabilise également. Voilà. Il faut toujours plus de Nobby Nobby Boyer.
Mais oui.
Nobby Nobby de Boyer.
Jusqu'au fond du cosmos.
Voilà.
Est-ce qu'il faut toujours plus de personnes qui bouffent des protéines aussi avec Muscle March qui est sorti sur WiiWare il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. On en a fait le test hein, sur Gameblog il y a pas longtemps. Il y a même une vidéo hein, qui le prouve à quel point ce jeu est. Particulier.
Si ta question c'est est-ce qu'il faut plus de gens qui mangent des prots, je te répondrai non. Après, plus de gens qui jouent à Muscle March, oui, parce que
on rappelle le principe.
Rigolo. Alors le principe,
c'est particulier.
On a une team de 4 bodybuilders. Alors des bodybuilders, il y a des culturistes, donc mais. on a donc chacun c'est une nationalité différente, mais il y a aussi un ours polaire dans l'équipe. Et une jeune cheerleader qui s'appelle Brenda, mais bon, qui a rien à envier aux autres bodybuilders, hein, elle est carrée pareil. Et en fait, à chaque début de stage, il y a un personnage donc, qui prend diverses apparences. D'ailleurs, vous me faisiez penser tout à l'heure qu'il y a un des personnages qui apparaît pour voler le paquet de protéines, en fait, c'est ça le point de départ à chaque fois, qui ressemble à Pepsi Man d'ailleurs, avec sa combinaison bleue.
Mais c'est un extraterrestre, ouais.
Ouais, mais non, enfin, il y en a plusieurs en fait.
Attention, il faut bien respecter le scénario.
Il y a l'équipe des 4 culturistes et en gros à chaque fois il y a un personnage qui leur vole leur paquet de protéines.
Là,
donc
c'est la
donc des fois c'est un joueur de foot américain, des fois c'est un alien.
Ah, ouais,
il y a aussi alors un qui est très étrange, c'est deux gamins déguisés en lapin et il y en a un qui porte l'autre sur son dos. Donc voilà, j'ai pas trop
de chercher une logique à ça, c'est pas grave.
Donc ce personnage qui ressemble à Pepsi Man, qui lui par contre se déplace en skateboard, et ce qui était troublant, c'est qu'il se dandine beaucoup des fesses quand on doit le courser, c'est assez difficile. Et donc on les poursuit dans des villes ou à la campagne, et ils passent littéralement à travers les murs, ils foncent tout droit, et on doit reproduire la position de culturiste. Qu'ils ont laissé comme empreinte en fait dans les murs dans lesquels ils sont passés.
C'est comme le jeu
c'est mur. C'est ça. Ouais. Oui. C'est des Tetris humains, c'est ça.
Donc les deux bras en l'air, un bras en l'air, un bras en bas.
C'est ça. Et le rythme du jeu s'accélère au fur et à mesure. Les ennemis n'hésitent pas à feinter également. Et tout ça dans une ambiance vraiment formidable. Hein. Je veux dire, dans les menus, il y a des animaux de la savane. Tous ces corps huilés comme ça, c'est très joli, surtout.
Il y a quand même un des personnages qui est en référence directe à Saz dans Final Fantasy XIII.
Oui,
c'est un black avec dans ses cheveux une espèce de mini chocobo. Bah,
c'est ouais. Ça. Et il est Ganner.
Un Pokémon, j'allais dire.
Voilà. Très bien. Ça vous pourrez briller en société.
Hein, bien
ça.
Joué, Tiger.
Voilà.
Le petit plus produit, la petite information supplémentaire.
Ça prouve que j'ai joué au jeu.
Effectivement. Mais ouais. La vidéo le prouvait déjà.
C'est vrai.
Ce qu'on voit moins, c'est que tu trichais.
Alors écoute, comme au football, c'est la vidéo qui parle. On voit rien sur la vidéo, Julien.
On voit rien sur la vidéo. Mais dans ton ton, tu sais très bien que tu sais toi-même.
Absolument. Malheureusement, au football, c'est pas la vidéo qui parle encore.
Ouais, pas encore.
Ouais.
Tu viens de te faire.
Il n'y avait pas d'arbitre, donc voilà.
C'est vrai. Allez, on va conclure ce podcast avec un jeu qui va sortir en 2010 sur PlayStation 3 et qui utilisera le PlayStation Move et dont on voulait parler parce qu'effectivement, il est lui aussi assez particulier. C'est Slider.
Slider. Ouais.
Et c'est un jeu japonais.
Ouais, c'est
peut-être le jeu. Le jeu japonais. Oui, non, mais voilà, le seul jeu japonais présenté pour le PlayStation Move à ce jour, en tout cas.
Et dont ça se passe à Hong Kong, en fait.
Ouais. Et on est sur des chaises de,
des fauteuils de bureau,
avec des roulettes.
Ouais. En fait, l'histoire, c'est que donc il y a un chef d'entreprise et sa secrétaire, donc ils doivent de l'argent à la mafia locale de Hong Kong, et donc. Mais moi, je pense que ça ferait un super film avec Jackie Chan. Ça pourrait être quelque chose de vachement bien. Et donc, ils décident de s'enfuir à travers les rues de Hong Kong pour échapper aux mafieux, donc sur leur fauteuil de bureau. Et donc, il faudra contrôler donc, ces personnages sur leur fauteuil avec le PlayStation Move pour éviter tous les obstacles qu'il peut y avoir sur la route, les différents mafieux qui essayent de nous arrêter. Ça fait penser un peu à Crazy Taxi, dans l'ambiance un peu fofolle, la vitesse que ça prend, etc. Et puis, le petit plus, c'est que la secrétaire est très sexy. Donc, voilà, c'est pas mal. C'est certaines positions sur un fauteuil de bureau.
On aura bien noté au fil de ce podcast. Où va...
C'est ça, je crois que je, voilà.
Si à la fin de ce podcast catalogué, t'es pas catalogué, ouais, je sais plus quoi faire. Bon, bah en tout cas, c'était un beau tour d'horizon des jeux les plus barrés que les développeurs japonais ont pu nous concevoir. Bien évidemment, il y en a d'autres que vous allez peut-être pouvoir lister.
Poker mais... Ladies.
Ouais.
Sur mon blog.
Effectivement. Mais juste avant de conclure, Florent, il y a quelques petits titres du côté de l'arcade qui sont aussi complètement hallucinants. Par exemple, je pense à Chabudai Gaichi, qui est un jeu où on retourne une table, c'est ça ?
Chabudai Gaichi, effectivement. En fait, je ne sais pas exactement quand il est sorti, mais j'ai eu la chance de le voir lors de mon dernier voyage il y a 2 mois. En fait, c'est une borne assez imposante avec un tatami. Mm-hmm. Et puis sur ce tatami, on trouve une grosse table en plastique. Et Chabudai Gaichi, c'est un mot en fait, qui est souvent utilisé, que Julo aime bien aussi, et qui signifie en fait retourner la table de thé. Et en gros, que veut dire cette expression idiomatique ? Ça veut dire quelque chose qui est fait, on décide de l'annuler pour recommencer tout à zéro, quoi. En gros, c'est ça. Donc, c'est la réputation qu'ont des gens comme Miyamoto ou ce genre de gens. On dit qu'ils sont des Chabudai Gaichi.
Table rase.
Et voilà, faire table rase, exactement. C'est très bien traduit. Et donc, dans ce jeu, on a une table sur un tatami. On choisit la scène qu'on veut. Donc, en gros, c'est un pétage de plomb. Ouais. Donc, on choisit un mariage, une séance de mariage, si on a, au bureau, dans la famille. Enfin, il y a différentes situations de la vie de tous les jours où on a envie de péter des plombs. Mmh. Et ben, le but du jeu, en fait, c'est d'arracher la table du tatami puis de la balancer le plus loin possible. Bon, évidemment, c'est solidement fixé, évidemment, mais il y a des vérins qui te permettent de la balancer un petit peu. Et sur l'écran qui est un peu plus loin, on voit pixelisé, retranscrit en graphisme, tous les objets qui se trouvent sur cette table. Et le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à balancer la table suffisamment loin pour tout casser dans la maison. Et plus les objets vont loin, plus on engrange des points, etc. Donc, en fait, c'est un gros déstresseur, une simulation de déstress.
Et c'est reproduit de manière assez réaliste ou c'est très kawaii?
Non, c'est ni kawaii, c'est plutôt délirant. Voilà, c'est du graphisme.
En fait, ça fait penser à Pain en version d'intérieur, en fait. Pain, le jeu où tu dois envoyer des gens.
C'est vachement plus trash, alors que là, c'est plutôt comique dans la version japonaise. Mais voilà, c'est un jeu d'arcade assez récent et qui montre comme quoi les Japonais savent encore péter les plombs.
Clairement, parmi les jeux d'arcade aussi, mais celui-là il est un petit peu plus ancien, il y en avait un qu'on ne pouvait ne pas citer. C'est une simulation de chien en laisse.
Ah ouais, celui-ci il a fait parler de lui. On a pas réussi à retrouver le nom malheureusement en faisant le petit brainstorming, mais une simulation de promeneur de chien, voilà.
Donc c'est-à-dire que la manette c'est une laisse.
On tient une laisse.
Il faut être le plus proche possible de son chien.
Pour être franc avec toi, j'y ai jamais joué, ça m'a jamais tenté, j'ai jamais voulu mettre 100 yens dedans, mais effectivement les gens avaient l'air de bien rigoler en tirant un chien. Donc la laisse en fait était tirée où il fallait la tirer de son côté pour pas que le chien se fasse écraser sur un carrefour, enfin voilà ce genre de jeu quoi.
Et pour conclure en beauté ce podcast, eh bien on va vous parler d'un jeu qui n'est jamais sorti, que très peu de personnes connaissent. Pourtant, c'est un jeu Sega et lui aussi devait sortir en arcade. C'est un jeu où on devait traire des vaches, Florent.
Ouais, oh là là, mais tu me prends de court. J'ai pas étudié mon truc. Je crois que le jeu est jamais sorti. Ouais, mais il a été présenté à un salon. On a retrouvé des photos en faisant quelques recherches. Effectivement, c'était un jeu dans lequel tu mettais 100 yens. Tu prenais un gobelet et puis sous le pis de la vache que tu devais traire, et ben tu en ressortais. Bah je sais pas. En fonction de ce que t'as choisi, tu pouvais faire tirer du coca ou. Enfin voilà, tu pouvais traire toi-même ta vache et récupérer non pas le lait mais le coca ou le Fanta ou alors. Ton soda, peu importe. C'est voilà le genre de jeu qu'on pouvait espérer avoir dans les salles d'arcade, mais peut-être que pour des raisons d'hygiène ou je sais pas, il n'a pas été accepté et visiblement il n'a jamais fait son apparition dans les salles japonaises. Mais c'était plutôt sympa comme concept.
En tout cas, c'est la preuve que les Japonais ont eu une imagination clairement débridée. Non mais sans un jeu de mots. Et c'est vrai que parfois beaucoup de développeurs occidentaux pourraient s'en inspirer pour rendre certains de leurs jeux un petit peu plus souriants, colorés, vivants.
On a les lapins crétins.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai. Il y a les lapins crétins qui font sourire un petit peu, même si par exemple le dernier n'a pas très bien marché. Est-ce que les gens n'ont plus envie de rire? On ne sait pas, c'est la crise.
En tout cas, les dernières pubs sont très sympas.
Effectivement. En tout cas, voilà, c'était notre émission 142 dédiée au Japon qui pète les plombs, littéralement parlant et ludiquement surtout. Un grand merci à toi, Florent.
Ben, je vous en prie.
D'être venu, on le rappelle, hein, le 12e volume de Pixel Love, dédié en partie hein, à Adventure Island, mais il y a aussi pas mal d'autres choses,
Ben,
vient de sortir. Ça y est, vous pouvez vous le procurer, une fois de plus. C'était un beau retour sur toute la culture jeux vidéo, sur le rétro gaming, pour être encore plus sûr de maîtriser les choses.
Avec plein d'anecdotes.
Exactement. Merci à toi, Tiger. On aura bien compris où se situe ta passion ludique. Merci à Julo, merci à Raon. On se donne rendez-vous la semaine prochaine hein, pour un nouveau podcast. Maintenant à vous, si vous avez peut-être eu des expériences sur des jeux qu'on n'aurait pas cités hein, on pourrait continuer bien évidemment très longtemps, bah, n'hésitez pas hein, mettez les jaquettes, mettez des vidéos dans
les vidéos,
dans les forums
avec
hein.
Les vidéos c'est toujours mieux
exactement, mettez le embed histoire que tout le monde puisse bénéficier comme ça de petites pépites ludiques nippones qui nous ont fait à tous passer de bien bons moments. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, toujours sur gameblog.fr. d'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao.
Salut. Bye bye.